Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au quatrième épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Laser Quest. Ça se ressemble quand même pas mal, mais nous autres, c'est Dan qui fait son des lasers avec sa bouche.
Piu, 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 piu.
On aime ça, on aime ça. On va prendre une formule un peu différente cette semaine. Excusez notre confusion générale, on est tous un petit peu enrhumés.
Sauf Jeff, mais ça s'en vient avec la soirée qui va passer.
Je pense qu'il finira
c'est
pas
fait à soir.
Il finira pas le podcast en santé. Anyone est à peu près à 3 pieds un de l'autre, fait qu'on va y cracher en face toute la soirée.
On finit jamais le podcast en santé.
C'est un statement, ça. On va parler des commentaires qu'on a reçus de certains de nos auditeurs. Pas par courriel ou rien, là. C'est du monde qui sont venus nous approcher en personne pour nous insulter puis nous dire que.
C'est là qu'on dit salutement ou c'est ça?
Ben là, écoute, ça nous écoute, ça serait poli d'y répondre. On n'a pas encore de jingle pour le mailbag, fait que je pensais qu'on pourrait. On pourrait mettre le thème du film Le Facteur avec Kevin Costner.
Pourquoi pas? C'est excellent.
On sera pas poursuivre juste pour une fois, tu sais, on l'enlèvera. Premier commentaire qu'on a eu, les voix de Jeff et de Dan se ressemblent beaucoup. C'est pas toujours évident de les distinguer quand ils parlent.
Mais c'est vrai, ça.
Parlez donc un petit peu, ouais.
Mais j'ai remarqué la même chose, puis ça, je m'interrogeais là-dessus.
Ouais, moi, je m'interrogeais pas, mais c'est juste parce que je suis tellement habitué de m'écouter parler tout seul dans ma classe que.
Bon, mais moi, j'ai une solution. Ok, je pense que la seule méthode qu'on a, c'est d'en faire castrer un des
deux. J'allais dire, je suis d'accord.
Donc, on va demander à nos auditeurs d'aller sur Twitter, hashtag Jeff Uniball, puis Dan, ben, vu que t'es prof, on va y aller quand même en français, là, fait que ça va être hashtag Dan Monocouille.
Non, mais c'est correct, c'est.
On va prendre les résultats du sondage dans deux semaines. J'ai des cutters ici, tout, là, on va pouvoir faire ça.
Ce qu'on fait pas pour la gloire
de Boys.
Ça sera mon dernier podcast ce soir, je vous l'annonce.
Attends, ça va peut-être gagner.
Dernier tir sur révérence après une controverse.
C'est parce que j'ai pas voulu que le monde le sache choker, que j'ai déjà choker. Juste une couille.
Perdre de longues sommes, la dernière.
Vrai, moi, on m'a dit par exemple que ça me ressemblait pas quand je parlais sur le podcast.
Ah, ok. Moi,
que ma voix en vrai, puis mes voix sur le podcast, on me reconnaissait pas.
Mais on pourrait mettre un filtre autotune.
Il serait constamment en autotune. C'est comme l'épisode dans I Met Your Mother, là, qui met l'autotune dans tout l'épisode. C'était écœurant. Hein. On devrait essayer ça. Juste un 2-3 minutes, pas le show complet.
Ouais, je sais pas ça, ouais.
Jeff T-Pain.
Ben, on s'excuse de nos voix. Malheureusement, si on est né avec, ben, on en a eu la puberté, puis ça a donné ça.
Ouais, c'est ça. La seule réponse qu'on peut donner, c'est ben, on s'excuse.
Quand il y aura le vidéo, vous allez voir, c'est facile de distinguer les deux. Et,
ben.
Un facteur 2.
Relativement facile.
On va passer au deuxième commentaire. Parce que c'est pas riche comme discussion. Là.
On peut faire une photo sur Twitter, par exemple.
Non, on fera ça. On fera ça. C'est pour tout le monde qui nous suit sur Twitter. Ça serait bien que vous vous présentiez, qu'on sache un peu plus qui vous êtes. J'ai pas vraiment de gag là-dessus. Là. Dan, parle-nous de toi.
Comme je le drop souvent, je suis un enseignant.
Comment tu t'appelles, Dan?
Ouais, je m'appelle. Ouais, Ouais, donc Danny Gravel ici au micro.
Bonjour, monsieur Gravel.
Non, merci, ça va aller. Donc ouais, je le drop souvent là, que je suis enseignant parce que bon, ça fait partie quand même de ma vie. Sinon, au niveau du gaming, gros fan de JRPG depuis longtemps. Ça, c'est le rhume qui fait ça. Donc depuis très longtemps quand même, d'où le petit amour du rétro que j'ai aussi. Puis récemment, mettons, dans le plus récent, je suis plus dans les jeux indie ou joueur de WoW depuis plusieurs années aussi. Je l'avoue.
Fait que maintenant, vous connaissez intimement Danny.
Ouais, intimement.
Intimement.
Alors,
intimement.
C'est comme ça qu'on aime te connaître, Danny.
On va de la musique intime tantôt pendant le show.
Vraiment.
Ouais, ben, Jeff, étonnamment, si quelqu'un se le demande, c'est pour Jean-François.
Ah, ben bonjour Jean-François.
Quand je podcast pas, puis je suis pas en train de changer les couches, ce qui occupe quand même une grande partie de ma vie. Pas seulement le podcast qu'on fait une fois ou deux semaines, mais surtout le changer les couches. mais sinon, je travaille pour Vidéotron, au niveau du département de la formation, développement, efficacité opérationnelle. On n'en dira pas plus.
J'ai failli m'endormir.
C'est ça les problèmes que j'essaie d'adresser de tous les jours. Non, mais sinon, au niveau du gaming, beaucoup d'intérêt au niveau du indie gaming, puis de tous les différents développeurs, et surtout au niveau du game design aussi.
Qu'on
discute souvent, c'est ça. Fait que qu'est-ce qui fait un jeu ou comment ils s'y prennent, les différentes approches qu'ils font. Que des fois, je pense que j'aime peut-être même plus le concept puis l'idée ou les nouveaux concepts, les idées originales que, je veux dire, un shooter standard, on a, c'est Been There, Done That, on a tout vu ça, fait que je m'intéresse beaucoup à, aux nouvelles façons de faire et
ben d'accord.
Aux nouvelles approches.
Ben d'accord, merci.
Puis toi, Matt?
Puis moi, ben, moi, c'est Mathieu. Bonjour. Bonjour. Voilà. Programmeur-analyste dans la très belle région de la Nozière. Dans le gaming, de mon côté, c'est beaucoup de rétro gaming. Je suis le gars qui connaît les esthétiques de vieux jeux. Et j'aime beaucoup les jeux indie. Partiellement par intérêt de temps, mais juste parce que, bon, je suis pas du genre à grinder 20-30 heures sur un jeu. Fait que si je peux avoir une expérience complète en me donnant une couple d'heures, c'est ce que je préfère. Donc les jeux rétro ont souvent ce facteur-là. Mm. Et les jeux indie beaucoup. Donc c'est un peu ma niche là-dedans.
Mais aussi, c'est juste que je remarque, là, on est rendu, on a la trentaine, on a toute une vie qui est peut-être plus comblée avec le travail et tout ça, puis que les jeux respectent notre temps, c'est quelque chose qui devient plus important que...
Ouais. C'est une phrase que... Les mots exacts, là, respect de mon temps, c'est vraiment de quoi que je remarque souvent dans les jeux maintenant, puis qui me fait décrocher rapidement quand un jeu te demande de faire des tâches banales, puis c'est comme, non, j'ai d'autres choses à faire.
Mais moi, j'ai l'impression que... de façon générale, on l'a beaucoup dans la grosse discussion, mais il y a beaucoup de jeux qui s'en rendent compte que leur public général est quand même vieillissant, là, que la première grosse batch de gamers, c'est notre trentaine, puis ils s'en rendent compte que s'ils veulent les garder, il faut qu'ils respectent notre temps. Là.
L'âge moyen du gamer est de 31 ans.
Voilà.
On est comme tout
direct dedans.
C'est ça.
Et on a tous 31 ans.
En date du 23.
Mais là, tu parlais juste dans ton sous-sol ou en général, la moyenne?
ben, au moins dans le sous-sol. Ouais, ça, je peux confirmer. Et voilà, maintenant que vous savez tout de nous, ouais, on n'en reparlera plus jamais.
On s'est mis complètement, complètement nu pour vous.
Mais sérieux, on a des sonos tellement originaux.
On est
Jeff puis Dan. Sérieux?
Enfant de notre génération. Il nous manque un Eric ici.
Notre premier invité sera un Eric, on le trouvera.
Ça va nous prendre un Sébastien.
Fait que shout out au Eric qui nous écoute. Faut aller sur Twitter. Le plus grand nombre d'Eric qui vote pour Danny pour le concours de Unicouille. On va avoir l'occasion de venir ici au podcast puis de participer à une session de
recherche. Remplacer Danny pendant sa convalescence.
Moi, je fais pas de pression indue, je veux pas avoir l'air de Stephen Harper.
Bon, on va continuer les commentaires parce que. Ben en fait, une autre chose qu'on n'a pas dit à propos de nous, c'est qu'on est incapable de garder le focus sur un sujet. Voilà.
Oui, ça, on a-tu besoin de le dire?
Voilà. Prochain commentaire. Je comprends rien à ce que vous dites, mais je suis pas inférieur de toi. T'appelles pas souvent, ce serait le fun de passer en maison avec que je repars dans le sud. Ben, allô, maman. Prochain commentaire.
Fait que je t'ai volé ton gag tantôt. C'est excellent.
Prochain commentaire. On se calisse de ce que vous avez fait cette semaine. Bon, ok, c'est pas vraiment un message, mais j'avais aucun segue pour ce segment-là. Fait que, hey, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine?
Hey, viens-tu te coller un segue, toi?
Hey, mon name drop pour les segue. Ouais.
Donc,
cette semaine, Dan.
Ouais, je commence par moi. Cette semaine, Dan n'a pas joué tant que ça. Je me suis tapé un jeu que j'avais depuis longtemps, que j'avais pas joué beaucoup. Ça n'a pas été un grand classique que j'ai fait le tour de Shaman King, j'oublie le nom du jeu au Game Boy Advance.
Master of Spirit?
Ouais. Décevant. Pas mauvais comme concept, mais décevant comme ça finit vite, raide, puis hein, c'était le boss. Bref, j'ai pas joué tant que ça non plus, grosse semaine. Non, voilà, au niveau gaming, ça ressemblait à... Je vais rejouer à un jeu dont je vais vous parler plus tard, puis c'est pas mal ça.
Ok. Jeff?
Eh bien, écoute, cette semaine, j'ai enfin pris le temps de m'asseoir et de finir de set-up mon arcade. Que j'avais des problèmes avec les contrôles qui étaient rendus bizarres et étranges. Fait que ben, je me suis gâté. On a fait une bonne soirée d'arcade mardi soir, en fait.
Un shout-out à faire à un partenaire d'arcade?
À un partenaire d'arcade? Là, c'était Dave, en fait, qui a passé. Puis on a fini par dire, hey, j'ai un arcade. On s'est mis à jouer dessus parce qu'il n'était pas réparé. On a fini par réparer finalement.
Cool.
Fait que tout fonctionne, fait que elle est de retour et fonctionnelle. Puis sinon, j'ai étrangement eu peu de temps, là, c'est extrêmement chargé au travail, fait que les heures de gaming sont plus limitées. Fait qu'en dehors de l'arcade, j'ai eu un échec hier de gaming.
On en reparlera.
On m'en parlait tantôt.
Mais pour ton arcade, à qu'est-ce que vous avez joué?
On a joué à Mark of the Wolves.
Toujours,
ça a été c'est le go-to game sur mon arcade.
Pas de Windjammer.
Mais je l'ai pas dans ma liste, je l'ai cherché puis je l'ai pas trouvé.
Ah.
Fait que on semble ne pas l'avoir.
Ok. Ben moi, j'ai modifié ma liste depuis le temps qu'on a setupé nos affaires.
Mais j'étais dans toute la liste des jeux, j'ai pas trouvé non plus.
On regardera ça, ouais.
Ça va être à suivre.
Bonjour Windjammer.
Shout out à Windjammer.
Shout out à Windjammer.
À tous les fans de Windjammer.
À tous les fans de Windjammer.
Shout out au frisbee.
Au extreme frisbee.
Aux amateurs de frisbee et de, ou de air hockey, c'est un étrange mélange entre les deux. Mais c'est ça, fait que à fond, on a réinstallé la machine, puis fait que maintenant c'est plus juste comme un gros meuble qui prend de la place dans le milieu de mon salon. Il fonctionne.
C'est un gros meuble qui prend de la place dans le milieu de ton salon, puis que tu peux jouer dessus.
Voilà.
Et voilà. Puis moi, ben j'ai également pas beaucoup joué, coudonc, hein.
Il y a des choses.
Mais par contre, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à Lock and Chase, qui est un jeu sur Game Boy, qui à l'origine c'était un clone de Pac-Man. C'est un petit jeu de 5-6 piastres. C'est le meilleur jeu à la Pac-Man que j'ai joué de ma vie. Chaque nouveau monde apporte des nouvelles mécaniques, c'était écœurant.
Un jeu à la Pac-Man.
Ça a commencé en arcade.
Il y en a plusieurs, tu sais.
C'est un clone de Pac-Man à l'origine, carré, avec une mécanique différente. Puis la version Game Boy, ils l'ont évolué. Chaque monde a des nouvelles mécaniques, c'était écœurant. On prendra peut-être plus le temps d'en parler une autre fois, mais c'est un petit hidden gem, là, je crois, là, au Game Boy. Là, ça vaut 5$, puis c'est beaucoup trop le fun. Pour 5$, t'en as beaucoup trop pour ton argent. Fait que c'est pas mal la seule affaire que j'ai joué à part ce qu'on va parler dans le reste du podcast. Puis justement, cette semaine, on a un épisode spécial. On a un épisode thématique où est-ce qu'on va parler de jeux de stealth. On va se mettre un petit peu de musique pour être dans le mood.
Oh, alright. Cool.
Ouais.
Fait que jeu de stealth, je sais qu'on a déjà dit que jeu de stealth, jeu de furtivité, d'infiltration. Pour le reste du fucking podcast, ça va être des jeux de stealth. Ça s'arrête là, ok?
Charlotte à l'eau 101.
D'accord. Et en l'honneur du thème, on pensait faire le podcast dans le noir, tu sais, pour plus immerser le public, mais bon, c'est
fait qu'à la place, on s'est tous habillés en ninja.
Voilà.
Voilà. Ben, en fait, je pensais le faire dans le noir pour quand même me crisser à poil, mais.
Oh, mais ça fait du différent d'habitude?
Ou... Ben, ça serait juste moins gênant, cette fois. Ouais.
Tu sais, c'est tout le temps pareil, Matt, des podcasts, plus le podcast avance, plus tu perds ton linge.
Bon, parce que vous allez perdre vos couilles, vous autres. Fait qu'on va, juste pour établir le baseline, typiquement, c'est pas une définition magique qui regroupe tout, mais quand on parle d'un jeu de stealth, on va parler d'un jeu où on est encouragé ou que l'on a l'obligation d'éviter les confrontations directes avec les obstacles et les ennemis, typiquement en se montrant plus malin qu'eux. En anglais, on dirait les « outsmart ». C'est cette définition-là qui nous permet de regarder ben des jeux comme étant des jeux de stealth, même si c'est pas que un jeu de stealth. Puis c'est ce qui rend ça intéressant justement comme type de jeu. C'est un genre qui est apparu dans l'œil du public avec Metal Gear Solid en 1998, puis depuis ce temps-là, ben ça a jamais vraiment arrêté. Tout le long du show, ben, je vais vous dropper une couple de trivia.
Mais pas avant 98, je peux nommer plusieurs jeux qui ont sorti avant 98.
Oui, mais vraiment stealth, que c'était dans l'œil du public, que le stealth est devenu quelque chose qui intéressait le monde.
T'sais.
OK. Oui, il y en a eu énormément avant 98, d'ailleurs.
Ça existait avant, mais en 98, les jeux qu'on fait comme « Hein? » Ça existe.
Ouais, c'est ça, on a eu un triple A, on a eu un jeu que tout le monde a regardé. Là. Tout le monde a joué à ça.
Les jokes qui viennent avec.
Puis... On parle de quel Metal Gear Solid en 98?
Metal Gear Solid. OK. PlayStation.
C'est bon, c'est ça.
Justement, on va avoir des trivia pendant le show, et le premier est au sujet du premier jeu de stealth. excusez-moi. Le livre des records Guinness a identifié un jeu qui s'appelle 005, qui est un jeu d'arcade comme étant le premier jeu de stealth. Tu sais, s'il y a une plateforme qui n'a pas de jeu de stealth, il me semble que c'est l'arcade. Et pourtant, le premier jeu de stealth est un jeu d'arcade. Dans le jeu, tu te déplaces sur une ville qui est disposé comme une grille. Il faut amener des valises sur le top d'un building. Il y a plein de buildings dans lesquels on peut rentrer qui sont différents. Puis dans certains des buildings, ben, c'est complètement noir avec des caisses. Puis les ennemis se promènent avec des flashlights. Puis il faut éviter le faisceau. Sinon, ils se mettent à donner pour chasser, pour pouvoir sortir vers le toit. Donc, on retrouve là directement les éléments de stealth en 1981.
Oh shit!
Quand même!
Les jeux de stealth sont quasiment là depuis qu'il y a du gaming.
Puis le jeu de stealth est plus vieux que la moyenne des gamers.
puis nous incluant, c'est nous ça. Incluant. Oui, voilà. Et pour le premier jeu qu'on va parler aujourd'hui, ça va être Danny qui prend la relève.
Eh oui, premier petit disclaimer de ma part, j'ai jamais été un hyper gros fan des jeux de stealth. Il y a quelque chose dans beaucoup de jeux de stealth qui me dérange, puis j'en parle un peu plus loin là, en faisant des comparaisons. Mais Gunpoint... Ah, Gunpoint. Je vais parler un peu plus calmement.
Le soundtrack te demande de calmer. Ouais, ça demande de calmer. Sur ta voix sensuelle.
Donc, écoute, je suis capable. Gunpoint, jeu de stealth, mais aussi en même temps de puzzle. Il y a un mélange entre les deux. Donc, jeu qui est quand même récent, juin 2013, développé par Tom Francis, qui était section editor là, chez PC Gamer. Puis qu'à un moment donné, il se mettait à faire des critiques qui se trouvaient quasiment un peu trop chien dedans. Il s'est dit, ben, peut-être que je devrais faire un jeu pour, comme, genre, ramasser ce que j'arrête pas de critiquer, puis mettre ça dans un jeu. Il a entendu parler de Game Maker qui permettait de développer des jeux avec une certaine facilité à ce qui paraît. J'ai pas essayé. Puis
pour avoir essayé Game Maker ou faire de quoi de comme Gunpoint a pas dû être forcément facile.
Ok, mais tu sais, bon, et je me basais sur ce que j'avais entendu, mais j'ai pas essayé. Bref, entre ça puis le programme d'assembleur,
il y a une marge, il y a une marge.
Ouais. Avec une relative facilité, disons. En tout cas, de ce que j'ai compris, c'est qu'il a développé pas mal tout seul. Là, il a fait appel à des artistes à la fin pour cette superbe soundtrack et un peu de visuel aussi. Donc, voilà. Le plus pur jeu indépendant où est-ce qu'il y a une personne qui a une idée puis qui développe, c'est un peu l'idée. Donc, si je parle un peu du jeu, si on parle, mettons, de la petite histoire du jeu pour regarder un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça, le personnage principal, Richard Conway. Richard, pourquoi le monde en anglais appelle les Richard Dick? Sérieusement, je fais une parenthèse, là, je comprends pas. Dick, en tout cas. Voilà. Mais Dick porte un trench coat qui prévient le dommage. Donc tu peux tomber de peu importe la hauteur puis être correct.
C'est bien connu.
Est-ce que ça fait partie du lore du jeu?
Oh oui.
C'est dit dans le jeu que c'est son trench coat qui fait en sorte qu'il peut se tirer par les fenêtres d'un cinquième étage puis tomber en bas puis être correct.
Ok.
Ça commence même là-dessus, je pense.
Je pense que oui, ça commence là-dessus. J'ai rien tantôt, ça commence là-dessus. Puis c'est bon, son trench coat qui permet de pas manger de dommages en tombant. Il y a aussi des Bullfrog Hyper Trousers qui sont ces pantalons qui permettent de sauter à des hauteurs ridicules. C'est vraiment le nom de l'objet. Dans le fond, le jeu commence, il vient de les acheter, ces Hyper Trousers, puis il les essaie. Puis c'est ce que le jeu. Ça part de même, là.
C'est ça le tutoriel du jeu finalement, c'est il essaye son nouveau linge.
Ben en fait c'est même pas le tutoriel, c'est vraiment l'introduction. Le jeu part puis tu vois le gars qui revole par une fenêtre, pouf, qui rebondit sur un mur puis qui tombe. Puis t'as comme pas plus de setup que ça à ce moment-là. Puis aussi des gants là, qui permettent de grimper après les murs. Ça c'est un peu les mécaniques de base du jeu. Tu peux sauter en malade, tu peux dropper au travers des fenêtres à des hauteurs de fou, puis grimper après les murs quand c'est des murs qui sont verticaux. Donc le jeu commence un peu comme ça, là, je viens de le dire, et le gars il rebondit sur un mur, tu sais, tu pars le jeu, bang, tu vois le gars qui passe au travers d'une fenêtre, qui rebondit sur un mur, qui tombe au travers d'une autre fenêtre, puis qui se relève, tu sais, ça part comme ça. Puis là, ben, t'es dans un building, t'essaies de sortir du building, puis tu te ramasses dans une espèce d'histoire de meurtre, là, quelqu'un qui se fait avoir, qui se fait tirer. T'es un peu le suspect principal au départ parce que là, en sortant du building, où est-ce que tu t'es ramassé en droppant par la fenêtre, là, ben tu passes devant une caméra, puis là, ben... T'as un peu toutes les petites machinations, là, les deux compagnies rivales qui t'engagent à tour de rôle parce que t'es une espèce d'agent secret comme à gage finalement. Fait que les gens te contactent sur ton cellulaire, puis ils t'engagent pour des missions où est-ce qu'il faut que t'ailles voler un truc ou l'autre, puis finalement ils t'engagent pour aller comme falsifier les documents qui t'es dessus pour les effacer. T'sais, un bout où est-ce que t'as le chef de police qui veut essayer de trouver c'est qui a fait le meurtre, mais qui peut pas passer par la police parce qu'ils sont soit hyper corrompus ou très incompétents. Il dit je sais pas là, mais c'est un ou l'autre.
Le résultat est le même,
fait qu'il t'engage pour aller essayer de t'incriminer toi-même. Ce qui est drôle, c'est que tu peux essayer de t'incriminer toi-même, pis ça marche pas là, il fait juste comme repousser tes arguments du revers de la main. Il y a un achieve aussi là-dessus. Je reviendrai aux achieves, c'est n'importe quoi là, c'est très drôle. Tu sais, le jeu a un petit côté très humoristique. Bref, l'histoire est un peu n'importe quoi, c'est du double cross, du triple cross, le monde s'arnaque un l'autre, les personnes que tu penses qui sont les pas fines sont finalement peut-être pas si pas fines que ça. Bref, c'est amusant à suivre, puis c'est pas dur à suivre, c'est même pas nécessaire si quelqu'un est pas intéressé, mais ça amène un humour assez intéressant. Donc un paquet de missions comme ça, puis t'essaies de... dans le fond, quelqu'un comme moi qui aime l'histoire, là, j'en ai déjà parlé, ben t'as le goût de savoir c'est qui a tué la fille au début, puis... comment ça s'est arrangé à ça. Bref, l'histoire est courte parce que c'est pas le point central du jeu, mais il y a une petite histoire qui fait que tu suis les missions une après l'autre puis que ça devient quand même intéressant.
Fait que malgré que tu dises que c'est un peu n'importe quoi, là, c'est comme pas si sérieux que ça, puis que t'as pas besoin de l'histoire, l'histoire est quand même intéressante.
Oui, c'est intéressant.
Ah oui, définitivement.
Oui, ça donne le goût d'embarquer, mais quelqu'un qui s'en fout peut juste comme cliquer OK. En fait, il y a même un bouton genre comme Start Mission sans avoir à tout le dialogue comme par texto. Ou est-ce que t'as des choix de dialogue qui sont très drôles en fait, là, ou est-ce que tu peux dire des niaiseries totales, là, c'est très drôle, tu peux bitcher le monde. Là. Ouais. Mais quelqu'un qui est comme.
Il est très self-aware, il est au courant de ce qu'il fait. Là.
Ouais. Énormément.
Donc, tu peux même cliquer le genre comme Start Mission, puis tu pars, puis c'est tout. Là. Au niveau du gameplay, là, c'est vraiment ce qui est intéressant. Il y a le côté stealth, là. Les ennemis sont dangereux. Comparativement à bien des jeux, là. Les ennemis sont dangereux. Tu veux les éviter le plus possible parce que tu te vois par un garde, il te tire, tu meurs. That's it. Il n'y a pas de « Ah, je mange 832. » Tu peux dropper de 302 étages, t'es correct, mais une balle, t'es mort. Donc, le côté d'infiltration est là. Les ennemis, tu veux les éviter.
Ah, puis ils dégainent sur un estique de
tête. C'est pas leur boum! Mais voilà. Il y a comme trois types d'ennemis. Là. Ben, il y en a un quatrième là, qu'on voit pas souvent. Il y a un petit garde niaiseux, t'as le garde avec une espèce d'armure, t'as l'espèce de comment il appelle, le professional là, avec son costume, puis que lui il peut te voir même dans la noirceur, puis bref, ils ont toutes leurs petites spécificités. Il y a aussi un police sniper là, qu'on voit rarement avant la fin du jeu. Quand tu te mets à. Si tu tires toi-même avec un fusil, t'as comme 30 secondes, sinon pouf, il te tire et t'es mort. Là. Mais on le voit pratiquement jamais si on joue un peu comme il faut la game du stealth. Donc, comme trois ennemis, un paquet de manières si on veut de les tuer, parce que c'est un jeu où est-ce que tu évites la confrontation, mais tu peux quand même être très violent ou pas violent. Tu as les options. Tu peux complètement les éviter ou tu peux les tuer. Il y a plein de façons. Il y a une façon des façons intéressantes, là, j'en reparle avec l'autre mécanique, mais tu peux aussi juste pogner le garde de dos, jumper dessus, puis le bâcher à coups de poing. Là. Puis il y a un achieve quand tu frappes genre 50 ou 60 coups de poing sur le même gars. Là. Genre, il y a comme un countdown, puis ça te dit, non, mais tu peux arrêter, c'est correct, il est mort, il bouge plus, puis ça finit par faire un achieve qui était comme genre, c'est vraiment nécessaire ou l'enfer de même, là.
Mais le son quand t'es punch, j'ai vraiment cette
sensation. Ah oui, c'est comme.
C'est pas ce petit son de claque-saïe, Rodrette, ça.
Non, j'ai rien sorti de mes pantalons.
T'as rien sorti de. Ben, que ça donne rien de mettre la porno base, écoute, le soundtrack est déjà tellement.
Ouais, le soundtrack est. Le soundtrack est le début du film, puis après ça, on parle.
Ah, c'est ça.
Donc, ouais, tu peux.
Pizza, puis...
Ouais, c'est ça.
Tout sur le character development.
Tu peux pogner les gardes quand ils sont sur le bord d'une corniche, puis eux ont pas le trench coat. Fait que tu drops avec le garde de 4 étages, lui il se relève pas, toi tu te relèves. T'es pas obligé non plus d'être violent à ce point-là. Le garde, tu jumps dessus, tu donnes un coup de poing, puis il est stun, tu l'assommes, mais tu peux aussi le bâcher jusqu'à temps que le sang coule. Bon, c'est quand même du sang pixelisé, mais tu comprends la violence. Là.
Tu comprends que le gars est en train de se faire pulper.
Pulper. Voilà, il y a une, comme dans le fond, une des premières choses que tu pognes du jeu, c'est un item qui s'appelle un crosslink qui te permet de changer comme la grille de power, là, de courant électrique sur un pack. Bon, les grilles comme de couleur si on veut, fait que tu l'actives en roulant ton scroll wheel, ça sourit. Puis là, au lieu de voir comme le building normal, tu le vois comme en espèce de noir et bleu si on veut. Puis là, tu peux jouer avec les symboles. Tu peux comme prendre que la switch de lumière qui allume la lumière ouvre une porte, mais il faut que ça reste dans la même couleur de gris. Fait que la switch rouge va ouvrir la porte rouge ou la switch rouge va allumer le courant électrique dans la prise électrique rouge à côté du garde. Puis là, puis le garde, ben voilà, une autre façon de tuer les gardes si on veut. Donc faut vraiment éviter les confrontations, puis c'est une des façons très très intéressantes du jeu, puis c'est le côté puzzle, c'est que tu peux être comme 3 étages plus bas que le gars. Parce que pour ceux qui n'ont jamais vu le jeu, c'est vraiment un jeu en plan 2D où est-ce que tu vois tous les étages, mettons, de l'édifice, puis tu vois une certaine largeur, tu vois quasiment tout le temps le building au complet. Là. Fait que là, tu peux être comme dehors encore au début du jeu, activer le crosslink là, s'il est déjà ouvert la grille, puis mettre à jouer avec le power. Là.
Puis là, dans la vidéo c'est qu'on est ici à côté de nous, on a vu que le personnage marchait au plafond, ça c'est un upgrade que tu prends plus tard, ça, ouais?
Non, ça fait partie de tes gants qui te permettent de marcher au mur puis au plafond, là.
OK.
Moi, je pense que mon kill préféré avec le crosslink, c'est les portes. Il y a des motion sensors comme trigger, tu relies un motion sensor à une porte automatique, Fait qu'il y a un garde qui passe dans une porte, puis celui qui est sur le bord de l'autre porte là-bas, il mange dans la face. Ouais. Fait qu'il se commence à se coucher à terre.
Puis il y a un achieve. Il y en a aussi un si toi tu manges la porte d'en face.
Bah, c'est sûr que ça arrive.
Ah, c'est sûr que ça arrive à un moment donné. Là,
tu mets un motion sensor, tu y penses pas, le garde il repasse en avant. Psh! Puis avec le petit Christy de psh!
Oh oui, tu manges la porte. Tu sais, le soundtrack est très drôle et très intéressant, mais les sons de tout ce qui se passe dans le jeu sont magiques. Là.
Satisfaisant.
Donc, avec le Crossing, il y a un paquet de trucs que tu peux jouer. Tu peux faire bouger les ascenseurs parce que tu peux relier un bouton d'ascenseur à quelque chose. Il y a des senseurs audio que tu peux mettre, des caméras qui te voient, des alarmes qui font un son. Tu peux, tu sais, donc un paquet de trucs. Tu sais, quand tu fermes une lumière, ce qui va se passer, c'est que le garde va vouloir aller ouvrir la lumière. Fait qu'il va comme bouger de son poste. Il va se déplacer. Puis là, ben, c'est une des seules façons que le garde peut se déplacer. Fait que là, si tu veux faire déplacer le garde pour le choquer avec une prise électrique, tu sais, ça fait partie de la mécanique. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je me rappelle pas de qui m'en avait parlé au début, là, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, c'est cool. Là, le stealth, mais t'as le côté puzzle qui est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis ça fait changement du puzzle où est-ce qu'il faut que tu mettes trois gems de la même couleur ensemble.
Faut que tu trouves la clé qui a une tête de bœuf. Tu sais, Resident Evil.
Ouais, c'est
ça. Calique.
Resident Evil, ça, c'est pas mon genre de jeu. Donc voilà. Fait que on parle du Crosslink, t'as aussi des upgrades que tu peux pogner entre les missions que tu peux acheter. Donc un truc qui va faire que tu vas pouvoir encore plus jouer avec ton Crosslink, envoyer le pouvoir de la, mettons, de la prise électrique à une switch de lumière. Fait que là, t'éteins la lumière, le garde va allumer la lumière, mais en allumant la lumière, ça ramène le courant de la switch dans la lumière, puis ça s'appelle genre le prank quelque chose, là, comme si c'était un prank, mais le garde meurt là.
Y a un très, paquet très drôle, ouais. Prank.
Il y a un paquet de trucs comme ça, là, un upgrade que quand tu l'actives, tu peux sauter au travers des fenêtres sans faire de bruit. La fenêtre, elle brise, mais sans bruit, fait que les gardes se rendent pas compte que tu viens de péter une fenêtre.
Mais comme les tableaux sont fixes puis ils bougent pas, la progression, il y a quelque chose dans le tableau qu'il faut que tu fasses. C'est quoi qu'il faut que tu fasses dans chacun des tableaux?
Ben, il y a un paquet d'objectifs. Dépendant des tableaux, il y en a qu'il va falloir que tu ailles hacker un ordi pour enlever, comme effacer des preuves, mettons, comme je disais tantôt, ou aller chercher le disque dur de la caméra, des affaires de même. Fait que okay. Tu vas aller chercher des objets physiques ou ou hacker un ordi parce que c'est la seule chose que tu es capable de faire sans toutes tes affaires, tes objets. Là, t'es capable de hacker des ordis. Hein. Fait que souvent, la progression, c'est d'aller chercher quelque chose à un endroit dans le tableau. Fait que faut que tu te rendes, c'est un peu le principe, puis que tu ressortes. Il y a aussi d'autres objectifs, là, des objectifs optionnels tout le temps. Chaque personne qui te donne une mission va te donner un objectif optionnel, genre la moindre violence possible. T'sais, demander le chef de police t'envoie dans le poste de police pour aller chercher comme une preuve, parce qu'il ne trosse pas ses policiers qui sont, comme je disais tantôt, là, soit incompétents, soit corrompus. Mais là, il veut quand même pas que tu tues ses policiers. Fait qu'il dit violence minimum. T'sais. Fait que si t'en pognes un puis tu l'assommes, c'est pas pire, mais si t'en tues 2-3, il sera pas content. Sachant juste que ton score sera pas bon, mais la mission est réussie pareil.
Okay. Puis si je me rappelle bien, je pense que c'est chaque personne qui te donne des missions ont des types de requêtes.
Bon, il y en a un que c'est genre de hacker les laptops, là, parce que t'as des laptops qui sont à peu près dans tous les tableaux, que c'est vraiment quelque chose d'optionnel, là, que ça a du texte, là, qui est du flavor text. Là, j'ai pas vu s'il y avait vraiment un lien entre les différents laptops, mais c'est juste comme un objectif de plus pour aller chercher, mettons, le A+, là, parce que toutes les missions sont cotées avec une note. Là. C'est un peu le côté un peu semi-rejouabilité de ce jeu-là là, qui est intéressant de ce côté-là. Fait qu'il y a des objets optionnels comme ça, puis sinon tu peux juste faire la mission.
Pour vrai, on peut-tu continuer comme parler 2 heures de ce jeu-là, parce que je prends vraiment goût à la musique.
Bon, ça va être un podcast édition spéciale, il dure 5 heures.
5 heures.
On a amené nos sleeping bags.
Pas vrai, parce que le podcast va durer quasiment aussi longtemps que le jeu.
Ouais, vas-y, mais moi ouais. J'aurais dit beaucoup plus personnellement. Mais...
Ben, ça dépend de tout cas, mon
point. Ouais, vas-y, c'est ta review, man, vas-y.
Donc, fait que c'est ça, vraiment intéressant au niveau du gameplay. Tu sais, il n'y a pas juste une façon de finir un tableau, il n'y a pas juste une façon d'aller chercher tel ou tel item. Des fois, il y a un tableau qui va me dire, ben, ça prend tel upgrade, fait que t'es comme un peu obligé de l'acheter. En même temps, ce qui est le fun, c'est qu'un upgrade, si t'achètes pas le bon, tu peux le revendre au même prix, tu sais, puis racheter l'autre. Il n'y a pas de niaisage de ah, tant pis, le jeu est bloqué. Il y en a quelqu'un qui vont te dire, ben, ça prend cet upgrade-là pour réussir cette mission-là.
Tu m'as fait penser, on en parlait, une des affaires les plus écœurantes que j'ai trouvées de ce jeu-là, tu peux essayer toutes les upgrades. Ouais. T'as un test room où ce que tu peux. Un sandbox, un petit carré où ce que tu fais. V'là le jouet, là, amuse-toi avec. Fait qu'il n'y a pas de tutoriel en soi, mais t'as un endroit qui t'explique comment il fonctionne, puis tu peux l'essayer pour bien le comprendre.
Dans chacune de ces pièces-là, il y a un laptop de caché, fait que si tu veux l'achievement d'avoir trouvé tous les laptops, ben, il faut que tu fasses. Tu sais que t'essayes ton upgrade, là. Fait que ouais, c'est amusant parce que l'upgrade, le tableau, comme pour l'essayer, tu peux pas le réussir sans l'utiliser. Ça te permet vraiment de voir comment ça fonctionne, fait que c'est quand même bien. Là. Donc, fait que tout le temps, plein de façons. Là, je veux dire, le jeu, tu peux décider d'y aller en tuant personne, tu peux décider d'y aller en tuant tout le monde, ça te tente, puis en étant hyper violent. Fait que plein de façons de résoudre des énigmes, puis ça, je trouve que c'est tout le temps intéressant. Un truc vraiment intéressant au niveau du gameplay, là, j'en ai un peu glissé des mots, il y a des achievements qui sont tellement niaiseux. Tu sais, il y a des achievements, bon, c'est comme un peu classique, mais il y en a qui sont super drôles, puis il y en a qui sont quand même durs à trouver. Là, j'avoue qu'il y en a quelques-uns que je suis allé chercher. Il n'y en a pas 800 000 des achievements dans le jeu-là, fait que à un moment donné, t'as comme le goût d'y faire tout, comparativement à des jeux, des fois, qu'il y en a comme 90, puis tu fais non, mais là, à un moment donné, j'ai d'autres choses à faire. Là. Ouais. Mais lui, il y en a comme, je sais pas trop, 14 ou 18 là, dans ce bout-là. Fait que à un moment donné, t'as le goût de les avoir tous.
Mais est-ce que t'as des exemples savoureux?
Mais tout à fait. Il y en a un achievement qui est I'm better at this than Francis, than Tom Francis, qui est le développeur du jeu. Puis il faut que tu battes le temps du développeur en faisant un tableau. Mais tu sais pas c'est quoi son temps, mais là, on est pouf, l'achievement n'y pop. Ah, ok, finalement, j'ai fait plus vite que lui ce tableau-là. un autre que j'avais comme noté, c'est Might as well have an achievement for that too. Qui est. Mon dieu, je l'ai pas noté celui-là. C'est un peu. Ah, oh, c'est. Plus tard dans le jeu, un des derniers upgrades que tu pognes, c'est que tu peux comme kicker des portes, puis les portes revolent. Oh, mais ils revolent solides.
Ah, oh, c'est le fun.
Fait que là, t'as un achievement. Tu sais, la première fois que tu pognes ça, ben, c'est le fun. D'habitude, les portes sont bloquées, faut que tu gosses avec ton crosslink. Là, t'arrives, puis tu kicks la porte, puis elle revole.
Ah, oh, puis tu whack les
gars. Elle fait la moitié du tableau. Fait que là, t'arrives dans le premier tableau que t'as ça, démolis la porte, elle revole, puis c'est le dernier tableau de jeu. Tu sais, c'est vraiment. On se garde.
Je suis pas à l'aise avec ça.
Non?
Non, mais kicker des portes, je suis pas à l'aise avec ça.
Quand tu t'es présenté, t'as-tu donné ton nom de famille? Sinon, il y a personne qui a pogne.
Non, il l'a pas donné.
Bon, on est désolé, Jean-François Laporte, ouais. Qu'il y ait des portes qui se fassent kicker.
Puis qu'il revole solide. ouais. Donc, si tu vas te faire kicker la porte, on va te hashtag...
hashtag kicker la porte, hashtag Jeff Unibar.
Donc, tu sais, tu défonces une première porte, ça démolit un garde qui était juste en arrière, pouf, t'as un achievement d'avoir comme tu un garde. Tu te reviens de bord, tu kicks une porte, ça défonce une fenêtre, pouf, t'as un autre achievement. Puis là, pouf, t'as un autre achievement pour une porte qui s'appelle... Je pense que c'est ça de la fenêtre, là, might as well have an achievement for that. C'est vraiment, t'as comme défoncé une porte que comme pété une fenêtre, mais t'as comme quatre achievements de suite d'avoir juste pété des portes, là. Tu sais, c'est gratuit, mais amusant. Il y a aussi le title finally relevant parce que la description est encore meilleure là. Helped justify my early not entirely wise choice of game name by holding someone at gunpoint with the resolver. Tu peux acheter dans le jeu une arme. Puis c'est vraiment une des dernières affaires que t'achètes. Puis je m'en suis servi peut-être une fois dans une mission. Puis c'est même pas pour tirer quelqu'un parce que tu peux pointer quelqu'un avec l'arme. Puis si t'avances pas trop vite, il va reculer. Genre, tiens-moi pas, là. Si t'avances bien proche, là, il va te shotter, mais si t'avances lentement, il te recule. Je pense qu'une fois que t'as vraiment besoin de l'utiliser, puis je pense que c'est peut-être même pour un truc optionnel, mais il y a un achievement pour avoir comme sorti ton gun puis pointer quelqu'un, parce que le jeu s'appelle Gunpoint, puis t'as pas de gun pour à peu près comme 90% du jeu. Fait que l'achievement, c'est vraiment Help Justify My Early... title Finally Relevant. Donc, les noms d'achievements sont très drôles. Il y a un achievement pour tuer le dernier gars des 7 façons possibles de le tuer.
Il y a 7 façons.
Il y a 7 façons de le tuer. Je me rappelle pas de toutes, mais tu peux y kicker sa porte de bureau d'en face. Tu peux le pitcher en bas du 8e étage. Tu peux le tirer avec ton gun. Tu peux t'arranger pour que. Parce que, bon, il y a un des upgrades qui permet de rewire le gun de quelqu'un. Fait que quand il shot, ça fait autre chose que de shotter. Puis bon, ça te prend du power, t'as comme des batteries que tu peux avoir. Fait que lui, si tu rewire son gun pour que ça fasse je sais plus trop quoi, puis qu'il tue. Bref, il y a comme, je pense, 7 façons. Puis t'as un achievement pour chaque façon, puis t'as un achievement pour avoir tué des 7 façons, tu sais. Fait que moi, la première fois que j'ai fait le jeu, je savais pas, puis là, tu le tues, tu sais. Mais là, j'aurais pu tuer d'une autre façon. Puis là, tu recommences la mission, tu le tues d'une autre façon. Attends un peu, on va faire une autre. Puis tu te rends compte finalement qu'il y en a 7. Fait que les achievements sont amusants. C'est le côté humoristique du jeu que j'ai vraiment, je pense, un des éléments que j'ai le plus trippé. Voilà, au niveau du gameplay, dernier point, il y a une possibilité de faire du level design. Moi, j'ai pas essayé, ou j'ai essayé genre 12 secondes parce qu'il y a un achievement pour ça, puis c'est le dernier qui me manquait, genre. Là. Puis depuis 2015, même, ils ont fait une refonte de l'engin du jeu en le mettant sur Steam, puis là, on peut le développer avec le Steam Workshop et tout ça. J'avoue qu'avec la facilité du Steam Workshop, j'ai peut-être le goût d'essayer parce que c'est un jeu que j'ai aimé à ce point-là. C'est un jeu que je suis pas le seul à avoir aimé, là, sur Metacritic, 83% de score, quand même pas pire. La majorité des critiques Quelles sont-elles, à ton avis, Mathieu, que, toi qui as joué au jeu?
Ben, c'est, tu veux dire des points négatifs qui relèvent?
Ouais.
Ah, c'est excessivement court. Puis, c'est sans seule chose, je pense que je peux reprocher à ce jeu-là. Là.
Mais c'est pas mal toutes les critiques qui donnent ce point-là négatif. Moi, j'ai rien dans...
Ouais, c'est ça. Mon playthrough, ça a été 3 heures. Puis, c'était à la sortie un jeu de 15$, je pense. Il était plus cher que j'aurais attendu d'un jeu de 3 heures.
Ouais.
Mais si c'est la seule critique, ça vaut quand même la peine.
Tout à fait.
Ouais, ben mettons que j'y vais avec la mienne, là, parce que là, je parlais de mes critiques. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de ce jeu-là, c'est que je disais tantôt, les jeux de stealth, en général, j'ai pas trippé. Parce que il y a comme souvent un stress qui vient avec ces jeux-là. Tu sais, t'es là, puis tu vas dans le noir, puis tu veux pas te faire voir. Mais ce stress-là est pas là dans le jeu-là. L'humour est tellement présent que. Tu sais, le petit stress de faut pas que je me fasse voir, je vais mourir, est pas là. Puis quand tu meurs dans le jeu-là, là, zéro punitif. Là. T'as automatiquement un petit menu qui te pop en bas de l'écran où est-ce que tu peux comme peser 0, 1, 2, 3 ou R, genre. Puis tu reload comme une seconde avant si tu veux, ou genre 5, 6 secondes avant, ou 10 secondes avant, ou tu restart le level. Là. Fait que tu sais, tu peux juste faire comme ah shit, j'aurais pas dû rentrer dans cette pièce-là, j'ai oublié de pogner le garde ou quelque chose. Reload une seconde avant, tu rentres pas dans la pièce, tu t'arranges tes affaires. Fait que c'est pas punitif de mourir. Ce qui est intéressant dans un jeu où est-ce que tu meurs aussi facilement si t'as oublié de pogner un garde ou si tu te pognes de face, pis.
Anyway, comment tu peux être stressé qu'un soundtrack de même?
Vraiment. Il y a une mission à un moment donné justement que si tu regardes le tableau trop longtemps, avant de partir de regarder le jeu, ben y a un garde qui se tourne de bord, qui avance tranquillement, qui te voit dans une tente, qui te shot. Ok, là, fait que faut que je me colle sur le mur pour évaluer mon tableau. Mais c'est pas grave parce que tu pètes sur le piton, tu reload, le garde il te voit pas, t'avances, t'es caché, tu peux regarder puis observer. Tu sais, la mort est pas punitive, là, mais vraiment pas. Ce qui est intéressant dans un jeu qui a le côté puzzle comme ça.
Je trouve ça bien que pour comment s'appelait Tom Francis
ouais.
Pour ce gars-là, Tom Francis, qui était une critique pour PC Gamer puis qui critiquait les jeux, ben chapeau d'avoir fait un jeu que la seule critique c'est d'être cool
quand même.
Bah oui, tout à fait. C'est ça prouve justement Mané, que t'étais pas juste chialeux pour être chialeux.
Non, mais c'est ça, ben
parce qu'il avait la réputation d'être excessivement critique, là, Tom Francis.
Ben c'est ce que je lisais là.
Ouais, c'est fait qu'il a prouvé que comment put your money where your mouth is.
Ben lui, il l'a fait solidement, là, parce qu'il a dit dans une entrevue que ce jeu-là, au niveau financier, il a demandé genre un investissement de genre 30$ pour Game Maker, puis pas mal ça. Fait qu'en 10 minutes après qu'il a annoncé la sortie du jeu là, en pré-vente, il avait comme rentré dans son argent, puis c'était fini. Là.
c'était 15$ le jeu. Acheté. Fait que le troisième, c'est du profit. C'est du profit.
Moins la cote de Steam.
Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est un des seuls jeux de Steam que j'ai pas acheté en gros solde ou sur un bundle. Je pense que c'est un. Alors, peut-être même le seul que j'ai dans ma liste que je sais pas d'où je l'ai vu, si c'était quelqu'un que j'ai vu qui jouait ou que j'ai fait comme moi, je veux jouer à ça, au point de l'acheter comme au 15$. Ce qui est quand même rare que je paye pour un jeu sur Steam, sauf quand c'est un jeu de 50 qui est en solde à 15. Là, ouais, quand même. Toi, de mon côté, ouais, je l'ai fait. Peut-être un ou deux coups que je me suis assis devant l'ordi pour le jouer là. Mon premier playthrough m'a pris quand même plus de temps que toi, peut-être un 5-6 heures, parce que j'ai rejoué quelques missions pour les achieves, j'ai joué quelques missions pour aller chercher mes A+.
Je suis pas un coureur d'achievement.
Mais en général, moi non plus.
Les A+, oui. Le côté genre t'aurais pu mieux le faire. Surtout les jeux de stealth, ils nourrissent ça. Mais les achievements. Rarement.
Ben, je suis comme toi, là. C'est bien rare que je cours après. J'en ai un, je suis content, mais je cours pas après. Sauf que, après avoir vu une couple des noms des achievements, comme je disais tantôt, j'ai quand même, c'est bien drôle. Puis ceux qui me manquent, je veux savoir c'est quoi. Puis là, tu vas regarder un peu sur le net, c'est quoi, parce que je l'ai dit autrefois, hein, je suis comme un faux complétionniste, là. Quand je veux compléter quelque chose, je me fais quand même pas chier, puis je vais voir comment faire, là. Puis quand tu te mets à avoir des achievements comme tuer le dernier boss des 7 façons possibles, ben. Moi, ça m'a donné le goût de le faire, tu sais.
Ouais, mais l'avoir vu qu'il y avait ça, j'aurais été curieux.
Mais je pense que c'est ce qui a fait que j'ai joué comme mon premier playthrough complet en peut-être 5-6 heures, là, si je me fiais à ce que mon Steam me disait. Deuxième coup, 2-3 heures, là, tu sais, j'ai pas gossé pour les achievements, j'ai pas gossé pour les A+. J'ai rejoué, j'avais commencé même avant qu'on en parle, parce que je regardais ma liste, c'était comme, ah, c'était le fun, le jeu-là. Puis j'ai dit de rejouer, tu sais. Mais il se fait très rapidement.
On a même failli critiquer tous les deux cette semaine.
Ben oui, c'est là qu'on s'en est rendu compte.
Hey, y a-tu le fun? J'avais le goût de rejouer juste pour vous en parler.
Fait que moi, j'ai rejoué, en fait, je l'ai refini juste pour vous en parler. Non, c'est un bon jeu. Puis je pense que c'est le fait que c'était un aussi bon jeu que j'ai eu le goût de refaire les achieves parce que ça allait m'étirer mon temps de jeu aussi, là. Parce qu'effectivement, c'est un jeu qui est très court, surtout pour le prix. Mais j'ai eu tellement de fun. Puis j'ai pas essayé les levels qui sont designés par le monde. Puis généralement, tu sais, si le jeu... Il y a une espèce de simplicité dedans, mais avec une complexité aussi pour les puzzles. Il doit en avoir des milliers, il doit en avoir comme quelques-uns qui sont assez bons pour être intéressants. Puis là, ben, tu viens d'étirer pas mal ton temps.
Moi, c'est un jeu que j'attendais beaucoup. On avait suivi depuis le début les premières vidéos qu'il avait présentées, puis j'avais vraiment, vraiment suivi ça. Je pense que c'est pour ça que ça m'a autant surpris, le petit 3 heures de gameplay. C'était toutes des bonnes heures de jeu. Là. Jamais été déçu une seule seconde en jouant. Mais justement, je l'attendais tellement, puis on avait vu un an avant ses premiers tests, ses premières vidéos qu'il avait fait de tests.
Oui, ça y est, un blog post aussi, puis...
C'est ça, puis ça m'avait surpris justement de tomber sur aussi court que ça pour un jeu qui a... oui, il y a beaucoup de polish, il a pris beaucoup de temps à s'assurer que ses tableaux étaient le fun à jouer, mais ça a quand même surpris, je suis comme calique, tu sais, c'est... j'ai peut-être sous-estimé le temps que ça prenait autant polir un jeu, mais... Je me sens qu'il aurait dû avoir plus de contenu pour le temps que ça a pris à développer et pour le prix demandé.
Ouais.
Mais, en rétrospect, j'en veux pas là, qu'il ait coûté 15$. Dans ma tête, ça aurait été un jeu de 10$, c'est tout.
Mais d'un autre côté, tu payes 15$, mais Danny, tu l'as joué deux fois. Puis, t'as eu du plaisir
j'ai
les deux
plaisir
fois.
J'ai eu du plaisir.
Fait que finalement, il a pas duré 5 heures. Il a duré le...
Ouais, je pense que pour ton argent quand même. 11 heures sur Steam.
Ouais, puis... sauf que la deuxième fois que tu l'as refait, c'est 2 ans après. T'sais.
Ouais, c'est ça.
Fait que
mais quand même, mais je trouve que c'est beaucoup dire d'un jeu quand de revoir le jeu, c'est comme hey, c'était le fun, puis tu le recommences, puis tu joues une deuxième fois.
Il mérite ça, il mérite ses compliments.
Oui, puis j'ai commencé à le rejouer avant qu'on en parle, puis que je décide d'en faire une review. Tu sais, j'avais commencé à le rejouer parce que ça me tentait, pas parce que hey, c'est un bon jeu, m'en faire une review, m'en le rejouer pour en parler, surtout qu'il dure 3 heures. Là. Mais non, c'est un excellent jeu. Si je vais avec ma note, je vais donner 3 pattes de divan. Mais il y en a une quatrième, mais pour avoir la quatrième patte de divan, il faut me tuer de 4 façons possibles. Voilà.
Oh, est-ce qu'il y en a une qui implique...
qui implique de me couper les deux.
Je t'ai prévisé un peu.
Espérons que non.
Merci, Danny. On va enchaîner avec un deuxième morceau de trivia sur les jeux de stealth. Excusez que je replace mon rhume avant de parler. Saviez-vous que Pac-Man est considéré comme un des jeux qui a le plus fortement influencé les jeux de stealth? Les patterns des ennemis, le fait qu'on peut pas avoir de confrontation directe, puis qu'on doit apprendre des patterns pour accomplir notre objectif, puis que le fait de battre les ennemis a pas de rapport direct avec l'accomplissement de l'objectif, qui sont des éléments centraux des jeux de stealth. Puis en plus de ça, pour cimenter cette idée-là, Hideo Kojima, dans une entrevue qu'il a donnée en Australie pendant une conférence en 2007,
il a carrément... C'est-tu que ça bouffait de main dans Pixel, ça?
Hideo Kojima, le créateur de la série Metal Gear, pour ceux qui ne seraient pas familiers, il a carrément avoué que le gameplay, quand Snake se fait voir, quand les ennemis se mettent à le pourchasser dans le premier Metal Gear, est basé sur Pac-Man.
Mais ça ressemble à quoi quand il se fait voir, mettons, là, pour nos auditeurs?
Est-ce que tu parlerais de... Yeah, c'est ça. Ça, c'est un Metal Gear solide, par exemple.
Oh, ouais, je sais.
Mais ça ressemble quand même à ça. Mais c'est ça, fait, il a quand même avoué que c'était basé sur Pac-Man, la façon que les ennemis le chassaient quand ils courent après une fois que t'étais détecté.
J'aurais aimé ça que le podcast soit vidéo parce que j'ai comme ma face. Je sais pas si t'as remarqué ma face qui changeait quand tu sais, une espèce de. Un vrai mind blown de shit. Vraiment, là.
Puis par rapport au jeu que je jouais, Lock and Chase, sur Game Boy, il pousse cette analogie-là encore plus loin parce que tu joues carrément un voleur de banque dans Lock and Chase, c'est une petite bouboule toute cute là. Puis c'est un clone de Pac-Man, mais dans les mécaniques qui rentrent, t'as des gardes qui dorment, puis il faut pas que tu pognes les petites alarmes, sinon ça les réveille, puis ils se mettent à courir activement après. Fait que sans être un jeu de stealth, ils ont réimporté des éléments des jeux de stealth dans un Pac-Man, ce qui est vraiment...
Mais quand tu y repenses, ça fait entièrement du sens, par exemple.
C'est fou, là. Puis j'ai vu sur le net, en cherchant, il y a un gars qui avait fait un jeu qui s'appelait Pac-Man Solid, qui était carrément un merging sans l'air de Pac-Man, mais avec des éléments de Metal Gear Solid. J'ai pas réussi à le trouver, mais ça avait l'air écœurant. Un bel hommage à cette relation-là.
Mais quand t'es parti avec ton jeu de Pac-Man, je pensais que t'allais dire que savais-tu que Pac-Man, au début, s'appelait Pac-Man. Pis...
Mais oui. J'essaie pas de te creuser comme Scott Pilgrim.
Ah, ok. Ben écoute, si j'avais l'air de la fille de Scott Pilgrim, je te comprendrais de me creuser.
Y'a ça. Fait que Jeff.
Écoute.
Ben j'écoute.
Danny, t'écoutes-tu?
Je sais pas, là, tu parles-tu encore de couper mes couilles?
Non. Oh, c'est agressif pas mal, cette affaire-là.
Waouh! Ouais. Oh, écoute! Ben, félicitations.
J'ai pas boire une bière cheap, soudainement, je sais pas pourquoi.
Désolé, on n'a pas ça.
Non,
ça va. On en a, mais ils sont pas trop cheap.
Ah, t'as pas.
Quand on a commencé à parler de faire un podcast sur le... Oh! Quand on a commencé à faire un podcast...
Attention, c'est un moment historique. On a le premier bon son de débouchage de bière dans le micro du podcast.
Après 4 épisodes. C'est ça qui arrive avec la bière de l'alchimiste. Elle est bonne, mais le bouchon, non.
Fait que, bonne, mais pauvre.
Pour tous vos besoins de son de débouchage de bière, Rickards, le meilleur son de débouchage de bière depuis l'année qui en font, je sais pas, là.
As-tu payé pour ça?
Vous allez faire non, un j'ai... drop de Wildcat, quelque chose. Excuse, Jeff.
Oui, excuse. Jeff, par quoi as-tu été déçu cette semaine?
Oui, on diverge.
Il a été déçu par 10 verges.
On 9, 11, parfois 10 verges. Bon, que ça fait là. Hein?
C'est beau.
Qu'est-ce que tu parlais, Jeff?
Ah ouais.
Ouais, donc.
Fait que
quand on a commencé à parler qu'on voulait faire un podcast sur le sujet du sterle, justement. J'ai essayé de trouver un jeu qui fitait dans ce genre de podcast que je fais d'habitude, avec du gameplay un petit peu différent ou avec plus indie. Fait que j'ai pensé tout de suite à la République. Puis là, mal dire, ah, c'est une bonne idée, c'est super intéressant. J'en dis pas plus sur République, parce que je vais probablement en parler plus tard.
J'espère, parce que je l'ai pas fait. Fait que je veux vraiment m'entendre parler.
Et République, en fait, que finalement, je n'ai pas pu jouer par manque de temps, comme on l'a mentionné tantôt. Donc, je me disais, je suis au travail pendant. On va dire pendant une pause. Tu veux que.
On va dire pendant une pause aide beaucoup à la crédibilité.
Ah, puis je réfléchissais à. Comme j'ai pas le temps de jouer à République, à quoi je peux jouer? C'est quelque chose que je connais ou que j'ai déjà joué qui venait s'inscrire dans le stealth gaming.
Quand t'es dans une pause, tu penses pas au pouvoir infini du câble?
J'essaie de l'éviter.
Il chante. Il chante 1, 2, 3, 4, fait 4.
Je la prends pas celle-là.
Ben, c'était une plus vieille pub.
Ah, c'est moi. Ouais. J'écoute toi à TV. Ça fait longtemps que j'étais relevant culturellement. Fait que, oui.
Ouais, c'est là qu'on est dans une main gang à ça.
Où je mutile les castors pendant mes pauses.
Ok, ça laisse la bug.
Déchirais-tu des papiers ou est-ce qu'il y a des petits bonhommes en dessin et amis en crayon? Hey, c'est beau, là, parle de ton jeu.
Donc, je savais quel jeu est-ce que je pourrais parler ou que je connais déjà, que je pourrais peut-être, sans jouer au complet, juste comme revisiter rapidement, me remettre dans le bain. Puis j'ai pensé à un jeu que je me rappelle, qui m'avait vraiment marqué il y a plusieurs années, quand j'étais plus jeune, puis que j'ai jamais vraiment retrouvé l'essence de ce jeu-là dans des jeux plus modernes. Puis j'ai dit, ben, je vais aller revisiter Thief de Dark Project, qui est sorti en 98, qui était développé par Looking Glass Studios. Donc, j'ai essayé de remettre la main sur ça, puis en faisant mes recherches, en disant, pendant ma pause.
Hey, ils sont longs,
ils ont des longues pauses.
Des longues pauses. Donc, en faisant mes recherches, je me suis dit, mais je vais aller fouiller un petit peu sur le sujet, puis essayer de lire sur peut-être sur le projet, le développement de ce jeu-là dans le temps. Et en cherchant là-dessus, je suis tombé sur un projet qui s'appelait The Dark Mod. The Dark Mod, qui se voulait un genre d'hommage un peu plus récent qui était fait en 2007, si je ne m'abuse. En 2009, en
ouais,
fait.
J'allais dire que 2009.
Non. 2009. Mais en fait, qui a été, probablement commencé en 2007, mais qui a été sorti le 17 octobre 2009, qui était un mod de Doom 3, en fait. Donc, qui était basé sur le moteur de Doom 3, qui nécessitait Doom 3 pour fonctionner. Et c'était, ça se voulait un hommage à Thief. Donc, c'était un mod qui utilisait aucun des contenus originaux, aucun des personnages ou des sprites ou des objets. C'était totalement original, mais qui allait recréer l'ambiance, les mécaniques, le style de mission, puis le pacing du Thief original. Principalement du Thief original, parce qu'on sait que la série Thief s'est un petit peu gâtée avec le temps, particulièrement quand ça a été vendu à Eidos. Mais l'original avait quand même un charme, il y avait quelque chose qui avait, il y avait une couleur. Donc, j'ai loué le Dark Mod.
Le brun.
Le brun.
Brun, très, très, très brun, très foncé. Donc, j'ai loué le Dark Mod dans l'idée d'aller revisiter ou d'espérer que j'allais pouvoir revisiter ce qui m'a fait aimer Thief dans mes jeunes années. Heureusement, en 2013, le 8 octobre 2013, les concepteurs de The Dark Mode ont sorti une version standalone du jeu qui ne nécessitait plus d'avoir accès à Doom 3 pour pouvoir le jouer. Et la façon que c'est fait, quand tu downloads The Dark Mode, c'est un standalone, tu peux pas jouer, il n'y a aucun jeu. Quand tu loads le jeu, tu as une belle interface qui dit maintenant vous devez choisir une mission, puis tu dois télécharger les missions. Avec la vitesse de l'Internet en 2015, ça a pris environ 2 secondes de télécharger l'émission. C'était extrêmement rapide. Tandis que The Dark Mode contient toutes les mèches, tous les personnages, tout le contenu est là. Enfin, c'est juste le level design, finalement, que tu télécharges. Je l'ai joué un petit peu, puis rapidement, je me suis rendu compte que je ne rejouerais pas aujourd'hui à Thief. Tout était là, le pacing, l'ambiance, le setting. C'est un setting similaire dans The Dark Mode.
Fait que c'est réussi, leur idée de revisiter Thief, c'est ce que je comprends.
C'est très bien réussi. Okay. C'est très bien réussi. J'ai bien vécu ce que je vivais avant.
Ils ont bien revisité Thief, c'est juste Jeff qui l'a pas revisité.
Ouais, c'est ça. C'est moi qui s'est abstenu de le visiter. En fait, je m'explique, Julien. c'est un genre de setting qui est super similaire à celui de Thief original, donc un genre d'époque victorienne, un petit peu fantastique, très très steampunk. Et la mission que j'ai jouée, c'est la mission qui était recommandée comme la mission démo, c'est une mission qui est courte, qui s'appelle The Blood of Saint Lucia. Puis ça parle d'une église où ils ont ramené un des morceaux du marteau original, les premiers bâtisseurs, qui est comme l'église, comme la religion de cet univers-là. Et depuis que le morceau est amené dans l'église, il y a une statue du premier bâtisseur qui pleure du sang. Là, tout le monde est super comme énervé de tout ça. Tout le monde crie au miracle.
T'as-tu qui pleure du sang? Moi, je me promène dans la rue, puis...
Il y en a plein sur
on
YouTube.
On a pas genre la grosse statue de Barthélémy Joliette sur le bord de l'eau.
Qui pleure du sang.
Qui finit peut-être qu'une bouteille de vin dans les mains. Pas une histoire pour une autre fois, ça.
C'est une histoire de Joliette. Puis là, tout le monde crie au miracle. Fait que tout le monde a fait tout plein de donations à l'église. L'église est rendue vraiment, vraiment riche. Donc, une église adverse engage le personnage principal qui est un voleur, peu importe sa profession louche, l'engage pour s'infiltrer à l'intérieur, voler la pièce du marteau, voler le plus de richesses possible et vandaliser la statue. Fait que c'est ta mission. Fait que sur le jeu, il y a 3 difficultés: normal, difficile puis expert. Facile, difficile et expert. Là, je cherchais le mode normal, il n'y en avait pas. Je me suis dit que le difficile devait être le normal, c'était au milieu. Puis d'habitude, j'aime ça jouer les jeux à difficulté normale. Je me dis que c'est souvent comme ça que les concepteurs ont pensé le jeu. Fait que je choisis ça. Puis tout ce qui variait, en fait, c'était la quantité d'argent qu'il fallait voler dans la mission. Fait que ça changeait pas vraiment. Il n'y avait pas aucune indication comme quoi les ennemis allaient être plus difficiles. Rapidement, c'est des mécaniques comme le Thief original. Donc, tu te déplaces pas très rapidement, extrêmement faible niveau combat, mais tu as tout un arsenal de flèches d'eau, de flèches de feu, de flèches de mousse, de tout ça pour te permettre de mousse pour pouvoir marcher dessus, pour faire de bruit quand tu marches sur la roche.
Je pensais que c'était que tu allais faire un GN.
Puis... Hey, c'est geek comme gag, ça. On fait un podcast de gaming.
Voilà.
Donc, il y a tout ce qu'on a besoin pour recréer Thief, ça le referait. C'est super bien. D'ailleurs, le mode est extrêmement bien reçu. Il a été couvert par PC Gamer, d'ailleurs. Tout le monde louange ce mode-là comme étant... C'est l'essence du Thief original.
Je sais pas si c'est Tom Francis qui l'a reviewé puis il l'a démoli.
L'histoire
le dit. Ça serait pas pire, mais ça serait plus gros si la soundtrack était un peu plus jazz.
Puis c'était juste en 2D, puis tu pouvais surtout travailler des vitres, puis...
Finalement, on va faire un jeu.
Mais la raison pour laquelle j'ai joué pas plus qu'une demi-heure, je pense, en fait. C'est que j'ai affronté 3 fois le premier garde que tu rencontres dans le jeu. Les 3 fois, il m'a vaincu très rapidement.
Life lessons, drame.
C'est ça, il n'y a aucun tutoriel, donc la courbe d'apprentissage est extrêmement abrupte là, dans le jeu. J'ai passé là d'ailleurs dans la vidéo qu'on voit présentement devant nous, puis j'ai pas réussi à ouvrir ce cadenas-là. J'ai tout essayé, puis le cadenas ne s'ouvrait pas.
Le gars dans la vidéo, en tout cas, il l'ouvre. Là.
Parce qu'il ferme. Facile, on dirait qu'il niaise parce qu'il l'ouvre, puis il ferme, genre notre tantôt.
Marche pas.
Non, mais il nargue.
Marche pas le cadenas, correct.
Fait qu'en fait, il y a clairement des chemins alternatifs qu'il faut utiliser. Il y a plusieurs solutions pour passer à travers les premiers gardes. Je les ai cherchés, puis rapidement, j'en suis venu à la conclusion que ce genre de jeu-là prenait beaucoup de temps.
Ouais.
Et du temps que j'avais quand j'avais 14 ans, Fait en 98, j'avais quel âge? J'avais plus que 14 ans.
J'avais 98, t'avais 14 ans.
J'avais 14 ans. Quel calcul mental.
Impressionnant.
Impressionnant. Donc, j'avais plus de temps quand j'avais 14 ans que quand j'en ai 31.
C'est-tu juste de t'en rendre compte?
C'est un beau statement, ça.
Non, mais je viens pas juste m'en rendre compte. Mais dans mon appréciation ou dans mon souvenir de ce que le jeu était...
T'avais-tu vraiment beaucoup plus de temps? Parce que je me rappelle que tu te masturbais beaucoup.
Tu te rappelles de ça? On a eu des échanges à ce sujet-là?
Non, j'étais juste en ta fenêtre.
Non, il était là-bas. Puis vous connaissiez pas encore à 14 ans, mais il était là-bas pareil.
Salut, je m'appelle Jeff. Je le sais. Je t'aime.
On s'en parlera tantôt.
Après ce malaise, on continue.
Donc, j'avais une nostalgie, je pense, de ce jeu-là. Et souvent, quand on parle de nostalgie, c'est peut-être mieux de ne pas revisiter. Comme on parle de la musique de notre adolescence est excellente, mais ne vieillit pas toujours bien. C'est la même chose pour ce jeu.
Parle, Lee Hansen, c'est malade.
Doo-wop, c'est un esthétique.
Backstreet, back, all right.
J'ai eu le malheur de réécouter Dick Tracy il n'y a pas longtemps. Ça... En tout cas, pas celui.
Dick Tracy ou le Rocketeer, mais le Rocketeer, quelque chose qui a vieilli bien quand même. C'est mon refus de céder à la nostalgie. Donc... Malheureusement, je pense que c'était ma nostalgie qui me faisait donner l'envie de revisiter ce jeu-là. Puis en fait, quand je parle de nostalgie, j'avais quand même une certaine appréhension par rapport à ça. Ben je me suis dit, je vais pas aller jouer à Thief, je vais aller jouer au mode basé sur Doom 3, les graphiques vont être mieux. Peut-être que l'approche va être plus facile. Effectivement, visuellement, c'est correct. Mais on vient revisiter ici un jeu qui... On peut parler d'un des précurseurs des stealth en première personne, donc ce qu'il appelait du first person sneaking. Et clairement, j'ai plus le temps et j'ai plus le luxe de jouer à ces jeux-là. J'avais une semaine de vacances, puis pas mon fils, je me ferais un plaisir d'y jouer, c'est super bien fait. Fait rien à dire en mal de ce mode-là, mais ce qui m'a plutôt apporté à faire une réflexion au niveau des jeux de stealth, puis de la difficulté de les approcher des fois. Parce que c'est pas tout le monde qui les aime. Danny, toi-même, tu l'as mentionné, que c'est pas les jeux que tu préfères. Fait que j'ai une petite réflexion à savoir pourquoi ce jeu-là, j'ai de la difficulté à l'approcher, j'ai rapidement abandonné. Puis, dans la même discussion, parce qu'on avait une discussion sur Facebook en même temps, pendant que je le testais, est venu sur la table Mark of the Ninja. Fait que tout de suite, dès que c'est venu sur la table, j'ai même pas hésité. Immédiatement, je l'ai téléchargé sur Steam dans ma librairie. Et je l'ai lancé, puis j'ai passé une heure à jouer à ça. Fait que j'avais pas le temps, j'avais pas la demi-heure à mettre sur The Dark Mode, mais j'ai mis une heure sur Mark of the Ninja.
Il te l'a exigé,
Il me l'a exigé. En fait, j'étais juste pas capable
après
de déposer la
table. La j'ai compris. Après, il est venu sur la table, c'est
ça. Ben, c'était sur Facebook, c'est ce qu'elle relate.
C'est ce qu'elle relate.
C'est ce qu'elle relate. De toute façon, c'est d'avoir revisité Thief, ça m'a ramené à quand j'avais 14 ans.
Il était dans le bon mindset. Excellent. Obligatoire à ce moment-là.
Donc, je me dis pourquoi est-ce que je suis capable de passer une heure sur Mark of Ninja, mais j'ai de la difficulté à passer 20-25 minutes sur The Dark Mode.
Mais à l'œil, peut-être que t'as une question d'acuité visuelle, parce que ça a l'air sombre en salle.
Non, mais tu sais, on peut jouer avec le brightness du jeu, c'était pas aussi sombre que ça sur, à la maison quand je l'ai testé.
Mais quelle réponse as-tu trouvé pour toi-même, Jeff?
Ben, j'en ai trouvé plusieurs. En fait, ils ont été rapidement évidentes quand j'ai vu ça pendant que je jouais à Mark of the Ninja. Puis à un moment donné, j'ai fait comme « Ouh, il est tard, je vais aller me coucher, je travaille de bonne heure. » Un autre niveau. Moi, j'en ai fait quelques autres. Puis, rapidement, Mark of the Ninja se démarquait. De la même façon que Gunpoint, un petit peu, que ce que je voyais dans les images qu'il y avait tantôt, il y a beaucoup d'indices visuels. On s'éloigne beaucoup de... Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans Mark of the Ninja. Souvent, on va se demander, ouais, je ne veux pas que je fasse de bruit, mais quand est-ce que je vais faire trop de bruit, ou quand est-ce qu'il va me voir, quand est-ce que. C'est souvent dans les jeux comme Thief, comme Dark Mode, dans tous ces jeux-là, comme plus récemment Dishonored, c'est souvent laissé au hasard et faut y aller à peu près. T'sais, on ne sait jamais quand on s'approche, on sneak un ennemi par en arrière, puis tu dis, est-ce que je peux m'approcher jusqu'à me coller sur lui? Il y a des jeux que oui, il y a des jeux où rendu à 3-4 pas, il se retourne, fait que là, il faut que tu passes à l'action.
Les premiers Splinter Cell aussi avaient ce syndrome-là de j'ai pas l'impression qu'il devrait m'entendre ou me voir, ou vice-versa. Je suis comme, il était à un pouce de ma face.
Ou pire que ça. Pire que ça, les premiers Splinter Cell. Il y avait, t'es dans une salle totalement illuminée. Il y a une colonne en plein centre qui fait un cône d'ombrage derrière la colonne. Tu pouvais te mettre en petit bonhomme dans le 3 pieds d'ombre et les gardes passaient chaque côté de toi sans te voir. Et pourtant, ton personnage, dans son dos, a toute une série d'équipements qui glow in the dark, qui fait la lumière. Mais il ne te voit pas.
C'est, ça a été, moi aussi, j'ai eu bien la misère avec les Splinter Cell à cause de ça au début, que le gars arrête vraiment à 3 pouces de ta face, il te regarde, il te stare down. Je suis comme, je suis dans l'ombre, là, je suis pas. Je suis
mais
pas
le premier caché. Était PS1, je pense.
Non, Xbox.
Ah ouais,
Xbox, okay. Xbox et PS2.
Oh oui, c'est vrai, j'ai mélangé à autre chose. Mais non.
Mais ça a été longtemps comme ça, là. En fait. Splinter Cell, tu te cachais dans l'ombre, mais tu te voyais pas pour le final. Là. Il y avait même la mécanique où le jeu tombait en noir et blanc là, dans les plus récents, quand tu étais caché dans l'ombre, c'est ça. Fait que là, ça, tu savais que tu étais caché. Mais il y avait quand même un disconnect au niveau où les ennemis marchaient à côté de toi et ils ne te voyaient pas.
Non, c'était juste parce que j'avais une réaction tantôt. Puis tu te demandais pourquoi j'avais une réaction. Là, c'est, encore une fois, si le podcast avait été vidéo, j'étais comme, ouais, ça a l'air cool, je vais aller voir sur Steam. Je... Ah! Il est dans ma liste.
Oh,
parle-moi comme un ninja.
Le classique, je lis ce jeu-là.
Que je suis en train de leecher ton internet pour installer Mark of the Ninja.
Et
bon choix.
Ouais. Là, je suis en train de jouer Mark of the Ninja, puis j'ai repensé à tout ça, l'absence de cue visuelle, l'absence de précision, qui est correct en soi dans certains styles de jeu, puis là, mais qui rend les variables plutôt plus difficiles à gager, puis le jeu tombe. Plus aléatoires un petit peu, donc c'est plus difficile de faire valoir ton stealth ou tes comptés. Je vais m'approcher par en arrière, tu sais jamais quand il va te voir ou pas, ou des fois tu dis ah pourquoi il m'a vu, tu le sais pas, des fois t'es caché, tu regardes pas un ennemi, puis un ennemi qui passe ailleurs, puis d'une façon quelconque va te voir, puis tu sais pas pourquoi.
Mais je trouve ça hyper intéressant parce que Mike Bittell, quand il développait Volume, a écrit une série d'articles où il parle de comment que la stealth a changé avec le temps, puis c'est pas vraiment possible d'avoir une awareness de ton état dans un jeu 3D. On voit quand même à travers l'écran, on voit avec des ayants, on sait pas ce qui se passe alentour.
Exactement.
Et à cause de ça, on dirait que plus les jeux de stealth ont avancé, même Splinter Cell, si tu vas jusqu'à Blacklist, t'as beaucoup de gadgets qui servent à comme enlever le côté que c'est en 3D puis que c'est pas clair. Fait qu'ils se battent à essayer de revenir en 2D, mais en gardant le niveau triple A super immersif qui fait qu'ils peuvent vendre un jeu 60$ puis qui fait triper le gamer moyen qui serait pas forcément attiré vers un jeu qui a pas autant d'action.
Mais il y a des jeux plus récents qui ont, je pense, contourné cet enjeu-là, comme les Assassin's Creed ou les Far Cry un petit peu, où tout d'un coup tu viens que tu hide in plain sight, tu te caches plus dans l'ombre, tu te caches plus dans une canalisation, dans un égout, tu te caches dans une foule tout d'un coup. Fait que là, de profiter du 3D, ça devient plus intéressant, mais je pense pas que ça rentre dans la même gamme de jeux. Ben,
mais c'est ça, tu sais, Assassin's Creed, j'ai beaucoup aimé, j'ai joué au. Je sais trop combien, dans les premiers, là, j'ai un peu débarqué à un moment donné. Là.
Un?
Non, mais j'ai joué plus que un. Là, mais... J'ai joué peut-être un ou deux. En tout cas, je me suis pas rendu avec les pirates. Là. Mais Assassin's Creed, la différence, c'est que. Si tu te fais voir, t'es pas mort comparé à bien des jeux de stealth. Je veux dire, peut-être là, c'était vraiment malchanceux, mais à un moment donné, t'es une brute qui peut démolir 17 ennemis.
Exactement. Mais c'est pour ça que je dis, je pense pas qu'Assassin's Creed, ouais, ça s'inscrit dans des stealth games parce que t'as les moyens de te défendre. Le combat est une option totalement viable.
Ben, un peu. Splinter Cell Conviction, autant que c'est un Splinter Cell, il a un petit peu tourné la table. Mais de la même façon que Mark of the Ninja, c'est que t'es tellement. Au courant de ton environnement, t'es tellement parfaitement en contrôle des variables que c'est toi qui crisse la chienne aux ennemis plutôt que d'être le petit qui essaie de se cacher puis de te sentir faible. Tu te sens fort.
Mais c'est intéressant parce que c'est tout des perspectives différentes sur des mécaniques qui sont semblables en quelque part. Là.
Ben d'accord.
Mais ce que Mark of Ninja fait super bien puis que Gunpoint fait un petit peu, il y a pas tant de jeux qui font, c'est que toutes les informations sont affichées à l'écran, tout est visuel, puis il n'y a rien qui est laissé au hasard. Les ennemis ont des cônes de vision, puis tant que le cône de vision ne te touche pas, ben il ne te touche pas, puis tu le vois en rouge dans l'écran. Quand tu marches, tu fais des petits ronds autour de toi qui déterminent jusqu'où le son va se rendre.
Il y a un corbeau qui passe, il crie, tu vois le rond.
Tu le vois. Les alarmes sonnent, tu lances un corps, quand tu prends un corps, tu le donnes de deux étages, quand il tombe en bas, il fait un rond, puis s'il y a un ennemi qui est dans cette zone sonore-là, mais il va être alarmé.
Tu te sens en contrôle de toutes les variables.
Oui.
Tu te sens en contrôle. Ça a ce feeling-là que tu te sens comme un complet badass quand tu joues à Mark of the Ninja. Parce que...
Contrairement à un jeu comme Thief, où est-ce que tu sais pas ce que le monde voit ou voit pas, c'est plus réaliste. T'sais, dans la vraie vie, si j'avais à sneaker, ouais, moi sneaker, c'est drôle, mais... si j'avais à sneaker à quelque part, je verrais pas ce qui se passe en arrière de moi, j'entendrais pas ce qui se passe à l'autre coin de l'autre mur, mais en même temps, tu sais, le côté plaisir de jouer, puis côté je me sens comme un badass, est pas mal plus intéressant, en tout cas pour moi. Tu sais, je pense que quand on parlait de ceux que j'aime pas les stealth games, ben c'est ce bout-là. Le bout, est-ce que je contrôle pas le trois quarts, puis là je meurs, je suis comme shit, pourquoi je suis mort? Tu sais, autant que je trouve ça drôle, là. Pourquoi je viens de perdre ma job à Don't Get Fired, puis c'était correct, que le shit, pourquoi je suis mort dans un jeu, est vraiment pénible.
C'est une règle de game design. T'es supposé d'échouer par ton action.
Comprendre pourquoi, pour
c'est ça.
Pour corriger.
Dire, tu dis pas, si Joe Cheek de Cali, tu dis, j'ai mardé. Tu sais, quand tu meurs de Mega Man, c'est parce que ben t'as pas compris le pattern, puis c'est ta faute.
Exactement. Pis c'est la même chose dans Mark of the Ninja.
Ah, ouais.
T'as pris le mauvais chemin, ou OK, faut pas que j'aille là. Tu le sais, la prochaine fois, tu changes ton comportement, tu passes ailleurs. Puis, ce que je me rendais compte que j'appréciais de Mark of the Ninja, c'est que, comme toutes les informations sont là, tu sais les ennemis sont où, tu sais jusqu'où ils voient, tu sais le bruit que tu fais. Entre deux ennemis, t'as plein d'espace, tu prends pas ton temps. Tu sprintes à travers, tu cours, tu sautes partout, tu sais que t'es safe. Y a pas de danger, fait que tu passes pas des heures à ramper dans des conduites d'aération, à pas faire de bruit quand il n'y a rien autour qui va te menacer.
Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui fait que quand le monde dit que j'aime pas les jeux de stealth, c'est beaucoup trop réducteur comme affirmation parce qu'il y a tellement de jeux infiniment différents. Mm-hmm. On pourra parler du problème qui est les genres de jeux une autre fois, là, mais ce sentiment-là de outsmart un ennemi, il peut être obtenu de plein de façons différentes. Puis. Thief, c'est vraiment d'analyser tout ton environnement. C'est un jeu de monde patient, puis tu te dis, tu sais, t'as vraiment l'impression que tu t'es battu contre les odds. T'aurais pas dû gagner, puis tu le fais.
Ouais. Mais il y a quand même des parallèles à faire entre Thief puis Mark of the Ninja. À Thief, une des caractéristiques principales de ton personnage, c'est que t'es vraiment pas apte à te défendre. Là. Oui, t'as une épée, oui, t'as un arc, mais les ennemis te font la peau en deux coups. Là. T'as aucune chance en combat. Si t'arrives pas par en arrière, si t'es prends pas par surprise, t'as aucune chance. Puis s'ils sont plus que un, c'est fini là. Tu fais pause, reload ta game, passe ailleurs, t'as échoué.
Mais il y a quand même des. Tu peux acheter des power-ups pour être pas mal plus mêlé dans Mark of the Ninja, si tu veux.
Ben, à Mark of the Ninja, oui, mais sauf qu'à Mark of the Ninja, t'es quand même très très fragile. On s'entend quand les chiens sont là, les chiens sont. Ça met une difficulté supplémentaire. Puis t'as pas d'armes, t'as pas de gun. T'as une épée, mais t'as pas de gun. Puis les ennemis prennent plusieurs coups, puis les ennemis touchent deux à trois fois, puis c'est la fin. Fait c'est pas punitif, je trouve, Mark of the Ninja, dans le sens où tu te fais voir, tu peux quand même sauter sur le garde, puis s'il est tout seul, tu peux le vaincre, puis tu peux continuer par la suite. Mais si vraiment tu tombes où il y a 3-4 gardes, c'est terminé, tu pourras pas avancer plus loin. Fait que t'es. Le combat est là, mais je trouve que c'est bien. Il y a une bonne balance entre tes aptitudes au combat puis l'importance qui est mise sur le stealth. Puis parce que toutes les informations sont visuelles, tu peux facilement choisir. Okay, là, je vais me battre parce que j'aurai pas d'impact. Fait que pourquoi perdre mon temps à sneak around? Il est tout seul, je fonce dans le tas, je passe à travers. Puis quand il y en a plusieurs, ça fait OK, là, je vais utiliser les informations que j'ai à l'écran, puis je vais faire le tour ou prendre un chemin alternatif.
Mais
là,
ça revient toujours à. J'ai l'information, je peux prendre des décisions.
Exactement. Et je pense que souvent, dans tous les jeux de stealth, on parlait que c'était d'outsmart les ennemis, c'était de ben, ça revient finalement à comprendre l'intelligence artificielle du jeu, puis de jouer autour de la... Dans le fond, finalement, les jeux de stealth reviennent régulièrement à être meilleurs que les programmeurs.
Puis ça, c'est le bout que j'aime. Toi, le bout que j'aime, tu sais, je pense qu'on on discute, puis je me rends compte des affaires que j'aime, puis que j'aime pas. C'est. Ce que j'aime pas, je pense, c'est ça, là. C'est le côté où est-ce que je contrôle pas tout, puis tu sais, yes. Dans la vraie vie, je contrôle pas tout, fine, là, c'est la vie. Dans mon jeu, j'aime autant avoir un petit peu. Puis où est-ce qu'il faut que je réfléchisse, que je pense à comment faire, il y a le côté un peu plus, entre guillemets, puzzle, là. C'est pas tout nécessairement au point de gunpoint, où est-ce que vraiment c'est un puzzle, là. Ce bout-là, j'aime ça. C'est pour ça que Mark of the Ninja, là. Je vais l'essayer, c'est évident, gars, je l'avais déjà, puis je savais pas. Merci, Humble Bundle numéro je sais pas quoi. Là.
Ah, puis je pense qu'avec le Humble Bundle, t'as même l'expansion. qui est des challenges, puis t'as les director commentary. Non, c'est un jeu absolument à jouer. Ouais. On n'en parlera pas dans le détail aujourd'hui, mais c'est une référence dans comment faire un jeu de stealth.
Puis honnêtement, même en dehors de la catégorie des jeux stealth, si on va jouer en général, c'est un de mes coups de cœur. Dans le look visuel, dans la musique, dans le... Les contrôles sont tellement précis, sont le fun à utiliser. Tu te sens totalement en contrôle de tes moyens puis les habiletés de ton personnage. Tu te fais surprendre. C'est super facile de se sauver, se mettre à grimper sur des murs, se sauver dans un conduit. C'est fluide. Puis juste, des fois, tu peux lancer ton grappelin, t'agripper après des lampes ou des chandeliers.
Le jeu pause quand tu lances quelque chose.
Exactement. Mais t'es pas obligé. Tu peux le faire, mais t'es pas obligé. Fait que c'est super fluide, c'est rapide. Tu te sens puissant. Mais t'as quand même toute la subtilité des jeux stealth. C'est un super bon mélange entre les deux. Je trouve que la balance est parfaite.
Mais je pense que c'est ça. On dit souvent les jeux, on dit tout le temps qu'il y a une expérience essentielle qu'on cherche à obtenir quand on design un jeu. C'est quoi que je veux que le joueur ressente quand il joue à ça? Puis les jeux stealth, la plupart, c'est de surmonter une épreuve en comprenant ce qui se passe et...
Autrement que par le combat.
C'est ça, outsmart. C'est que c'est mon intelligence qui a vaincu les ennemis, pas juste mes réflexes.
Puis
c'est tellement satisfaisant. C'est, la même, c'est le même constat quand tu réussis un puzzle. Fait que c'est une forme de puzzle, carrément.
Puis ce que j'apprécie vraiment, moi, de ces jeux-là, puis pourquoi tu sais, je suis porté à jouer à ce style de jeu-là comme Marvel Ninja, c'est, tu sais, on parlait souvent, quand on parlait de game design, on parlait le myth of the gun, avec le myth. Des armes à feu dans un jeu vidéo, ou dès que tu insères une arme à feu dans un jeu, ben, ta solution devient super simple.
Tu tires.
Tu pointes, tu tires, tapes ta balle ennemie, puis tu continues. Ça enlève toute la subtilité. Dans les jeux de stealth, t'en as pas, ou t'en as pratiquement pas.
Ou c'est comme Gunpoint.
T'en as un, t'as 30 secondes pour s'en aller, sinon tu te fais shotter par un sniper en dehors de l'écran.
Aussitôt que tu tires un coup de feu, y a un red dot qui apparaît. Puis même pour quitter la map, faut que tu fasses attention, même si t'as pas écoulé le timer.
Oh, ouais.
Fait qu'ils te disent, ok, on va te mettre un gun là, si tu veux t'amuser là. Tu veux pas t'en servir, il te fait tellement payer.
Mais il y a une mécanique qui contourne, mais ça devient pas, ça ne peut pas devenir la solution à toutes les puzzles. Non.
Et dans Gunpoint, ça s'appelle le Resolver.
Le Resolver. Non, dans Gunpoint, la solution à toutes les puzzles, c'est les gatekickers. Où est-ce que tu kicks des portes?
Mais c'est super intéressant que ça s'appelle le Resolver, parce que tu vois que Tom Francis était très au courant. Ah, ouais. Pis...
Il voulait pas l'appeler Deus Ex Machina, là, fait qu'il l'a appelé le Resolver. Là, c'est pareil.
Puis c'est ce qui fait que souvent les shooting games vont donner, sont plus fades ou plus, t'sais, c'est plus direct, c'est un no-brainer, t'avances, tu tires, that's it. T'sais. Fait que ce qui fut mon expérience d'hier soir, en fait, c'était de me rendre compte de pourquoi j'ai eu la difficulté à revisiter un jeu qui faisait un hommage à un jeu qui était de 1982 quand j'avais 14 ans. Je n'ai plus le temps de mettre dans ça. Je comprends parfaitement et je vais donner tous les crédits qu'il y a à donner à The Dark Mud, à Thief, qui faisait un excellent travail de mettre un setting incroyable. Si les gamers, on a vieilli avec ce jeu-là, je pense qu'aujourd'hui, un jeu comme Mark of the Ninja est beaucoup plus direct, a vraiment une excellente balance entre l'action, entre le stealth. Et plus de jeux devraient insérer des cues visuelles comme ça au niveau du gameplay.
Puis, ne serait-ce que ça nous a permis de regarder justement les jeux de stealth sous cet angle-là, ça vaut la peine que tu retouches à The Dark Mud, aussi désagréable ça a pu être.
Ça a duré une discussion intéressante.
Et voilà. Ben, merci JF. Donc avant d'aller à ma review, on va faire un autre petit bout de trivia. Cette fois-ci parlant de Wolfenstein.
Hey, on t'a-tu du contenu cette semaine, hein?
C'est assez impressionnant. Je suis pas mal fier de nous autres. Un autre jeu qui est sorti en 81, fait qu'encore dans les débuts du genre, forcément. Un jeu qui s'appelle Castle Wolfenstein, qui est sorti sur Apple 2, PC et Commodore 64, a apporté beaucoup d'éléments qu'on associe maintenant au genre. C'est un jeu d'exploration dans lequel on doit voler des plans nazis dans un bunker ou peu importe, là, dans le Castle Wolfenstein, évidemment. Les gardes sont alertés par le bruit des armes à feu. Ils nous pourchassent seulement quand ils nous voient, donc ils ont déjà leur pattern de garde, leur principe des rondes qu'on a retrouvé par la suite. On peut les pointer avec notre gun pour les forcer à se rendre puis à voler leurs uniformes pour se déguiser puis infiltrer, comme on a vu dans Hitman et d'autres jeux par la suite. Et le jeu est fortement inspiré du film Les Canons de Navarone, qui est un film justement des années 60, qui il se passe exactement la même chose. Puis toutes les actions que j'ai décrites qu'on peut faire dans le jeu, c'est des choses qu'on retrouve dans le film. Donc les jeux de stealth plus traditionnels, parce que dans le cas de 005, on parlait d'un jeu d'arcade, ils doivent beaucoup à ce film-là, parce qu'il y a tellement de choses qui viennent de ce jeu-là qui ont été repris par la suite.
Là, on parle de la version originale de ce jeu-là qui est basée sur les canons Navarone. Puis là, je repense à... comment il s'appelait The New Wolfenstein? Là,
The New Order.
The New Order. Mm-hmm. On est loin des canons Navarone.
Oui, surtout qu'il se passe comme dans les années 60 tout le kit. Mais parlant justement de la série Wolfenstein qu'on connaît en trivia bonus, Wolfenstein 3D au départ a été créé comme un remake. Ils ont d'ailleurs la licence de Castle Wolfenstein. C'était un remake 3D du jeu Castle Wolfenstein. Fait que pendant le développement, il avait réintégré toutes les mécaniques qu'on avait dans le jeu en 2D. Fait que le premier FPS moderne, ce qui a créé le FPS aujourd'hui, a failli être un jeu de stealth. Ils sont juste rendus compte que le fun venait beaucoup plus du shooting gameplay, du côté Twitch, mais leur intention était vraiment de faire un remake 3D de Castle Wolfenstein.
Il y avait Wolfenstein 3D aussi qui est sorti plus tard.
Ben Wolfenstein 3D, celui de id Software en 92.
Mais tu parles de lui, je pensais que tu parlais de Return to Castle Wolfenstein.
La franchise Wolfenstein de id Software là, qui perdure à ce jour, ça a commencé tout simplement parce que c'était des fans de Apple II, les gars John Romero, John Carmack, Tom Hall, les têtes de id Software. Ils voulaient faire un remake 3D avec leur moteur.
On est tous dans l'époque avec Wolfenstein 3D, on est à la même époque que le premier Doom.
Deux ans avant Doom, un an après Catacombs 3D, bref, on est la naissance du FPS avec le 3D. Ça a failli être un jeu de stealth. Le paysage serait peut-être bien différent aujourd'hui si le premier jeu d'action 3D aurait été un jeu pensant plutôt que juste un shooter. Ça a basé de roche.
Food for thought.
Et voilà. Donc, pour ma review, moi je vais vous parler d'un jeu qui vous fera pas mal au portefeuille, parce que c'est un jeu qui est disponible complètement gratuit. Ben, c'est sûr que si vous êtes arrangé comme Danny, vous allez découvrir un nouveau jeu comme Mark of the Ninja, puis vous l'avez déjà acheté. Fait que c'est sûr que ça fait pas trop mal au portefeuille, mais Trilby, The Art of Theft, dont je vais vous parler présentement, est un jeu qui est 100% gratuit depuis sa sortie en 2007. Là. C'est pas une nouvelle promo ou rien. Il est donné complètement gratuitement. On va d'ailleurs se mettre un petit peu de musique.
En plus d'être gratuit et de pas faire mal au portefeuille, il fait pas mal à ta connexion internet parce qu'il est genre 2.4 MB.
Il est très très petit parce que c'est un jeu qui a été construit avec Adventure Game Studio, qui est un programme fait pour faire des jeux d'aventure point and click. On est crissement loin du jeu d'aventure point and click. C'est un tour de force d'avoir fait un jeu comme ça avec un moteur semblable. Ce tour de force-là est une gracieuse idée de... Vous le connaissez peut-être, Yadzi, le gars de Zero Punctuation, qui fait des critiques cinglantes de jeux à très très haut débit.
Sans ponctuation.
Sans ponctuation, d'où le débit. Et encore une fois, un peu comme Tom Francis, on a le concept de si t'es pour dire de quoi ces jeux, ben montre donc tu sais comment faire, que t'es meilleur que les autres. Et c'est un autre exemple, une autre preuve de ça que si t'es. Tu peux être si critique, ben, tu peux peut-être nous sortir un bon produit. Et ça donne Trilby The Art of Theft. C'est un jeu que je voulais vraiment parler parce que c'est un rare exemple de quasiment de pur stealth. Il n'y a pas de combat d'aucune façon. On n'a que très très peu d'interactions directes avec les ennemis. Puis les ennemis nous combattent même pas quand ils nous trouvent. Ils vont juste signer une alerte puis il se passe rien d'autre. Ça va juste comme nous enlever un point. Donc il n'y a aucune confrontation directe dans ce jeu-là. C'est vraiment un jeu de stealth à sa plus pure expression. C'est un jeu qui est présenté tout comme Gunpoint. D'ailleurs, Gunpoint, Tom Francis, a cité Trilby, The Art of Theft, comme étant une de ses inspirations. Je vais commencer un petit peu de backstory.
Visuellement, il y a quand même une ressemblance, je veux dire, dans le sens où c'est en 2D, t'as les pièces, t'as... Bon.
Ben c'est ça, on a tout le même genre de présentation, où est-ce que c'est une vue en coupe d'un bâtiment, puis on se déplace en 2D. Aucune utilisation de la troisième dimension. et toute l'information est là devant nous et est très très claire.
Ben, aucune. Je regarde ça, puis t'as l'air de pouvoir comme te cacher en arrière-plan. Fait qu'une...
C'est vrai, on va y arriver.
Excuse, je skip un peu.
On va y arriver. Pour l'histoire, encore une fois, c'est très simple. Pour en écho un petit peu à Gunpoint, on joue le rôle de Trilby, qui est le nom d'un type de chapeau, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui est le personnage principal, qui porte évidemment ce type de chapeau, qui est un voleur gentleman, qui décide de s'en prendre un petit peu Robin des Bois-esque à un président d'une grosse corporation en volant des documents.
Il chante dessus dans le tableau, comme dans le film, là, avec...
Non, de Gentleman Cambrioleur. Non, Hudson Hawk.
Ah oui, merci.
Bref, en finissant un de ses vols, il se fait prendre en photo, puis il se fait blackmailer. Et il essaie de s'en sortir, puis on se retrouve dans un classique film noir avec tous les éléments du personnage féminin, puis tout le kit qu'on retrouve dans ce genre-là. Comme je disais, c'est un jeu de pure stealth. Comme arsenal, on va avoir la possibilité de se cacher sur les murs, comme Danny disait justement. Effectivement, c'est un usage quasi 3D. On peut s'aplatir sur les murs parce que dans les environnements, on a des zones de lumière où est-ce qu'on peut absolument pas se cacher. On a des zones de pénombre où est-ce que là, si on se cache contre le mur, les ennemis nous voient pas. Puis on a des zones d'ombre où est-ce qu'on est invisible même si l'ennemi passe à côté de nous. Tous nos états de visibilité sont clairement indiqués par une icône, par deux icônes en fait, en haut à droite de l'écran. Comme ça, on sait toujours ce qu'il y en est. Comme autre menace que les gardes, qui eux peuvent voir toujours en ligne droite, jusqu'au mur le plus proche finalement, il y a des caméras qui eux vont se mettre à clignoter un petit peu quand ils nous voient, fait qu'on a une petite marge de manœuvre pour aller se mettre directement en dessous, ce qu'ils nous verront pas avant de se retourner. Il y a des lasers qui vont soit se déplacer de haut en bas ou horizontalement. Dans tous les cas, quand on s'aplatit contre le mur, les lasers ne nous pogneront pas, sauf ceux qui semblent être en perspective, là, en genre de 3D. Là. Eux, il faut absolument passer en dessous. Bref, on a une bonne variété d'obstacles qui permettent de rendre des tableaux relativement intéressants. Il n'y a pas de combat. Le jeu nous impose, dans chaque tableau, un nombre maximum d'alertes qu'on peut faire sonner. Donc, être vu assez longtemps par une caméra, être vu par un garde, ou déclencher un laser, ou faire une mauvaise manipulation avec des fils qu'on peut couper pour essayer de désactiver des caméras ou des systèmes de sécurité. Si on coupe pas les bons, ça va déclencher une alerte.
Mais c'est une rouge ou bleue qu'il faut couper?
C'est rouge puis vert. Ah. Mais quand tu en as trois, là, t'as les rouges verts. C'est un petit peu un des points faibles du jeu. En fait, je pensais pas en parler dans ma review, mais le coupage de fil est un petit peu niaiseux parce que c'est aléatoire. Ça change une fois l'autre, puis t'as pas d'informations. Fait que tu prends un guess. Bon.
Puis moi, pour ceux qui auront joué à Mario Party avec moi, savent que quand il y a un jeu complètement aléatoire, je pogne les nerfs. Puis il y en avait un aussi dans je sais plus lequel, il fallait que tu coupes un câble, là, en fait.
Justement. Puis on a aussi on a la capacité avec son parapluie. Il peut, il se trouve être un taser en fait, son parapluie, pour garder l'image
du gentleman. Oui.
On peut taser un ennemi, les gardes évidemment, ça n'applique pas les caméras et les autres choses, ça affecte pas, excusez-moi. Mais on a une limite au nombre d'ennemis qu'on peut taser dans un tableau. Donc tu peux même pas dire je vais désactiver tous tes ennemis pour passer un tableau, c'est même pas une option. Donc c'est vraiment, faut que tu l'utilises dans ta planification.
Est-ce qu'il est nécessaire des fois?
Non. Non, jamais nécessaire.
Fait qu'il n'y a pas des puzzles construits autour du taser?
Non, jamais. En fait, il n'y a aucune des mécaniques qui est entièrement nécessaire dans le jeu. C'est une de ses forces. Parce que... Bon, en fait, je vais y revenir, mais il y a un système de classement qui est assez intéressant. Comme je disais avec le coupage de fil, il y a des mini-jeux. Le coupage de fil étant clairement le maillon faible de tout ça, parce qu'on n'a pas d'informations, c'est complètement aléatoire. C'est un peu triste. Mais on peut... craquer des coffres forts, ou est-ce que c'est juste un petit minigame, là, ça ressemble à tous les jeux stealth ou tactiques qu'on a, genre comme des pins en ligne et des cossins, c'est bon. Ça fait juste rajouter de l'attention, parce que si tu manques ton coup, faut que tu recommences, puis le reste du jeu continue à se passer en temps réel. Fait que si un garde est en train de s'éloigner, ben, ça rajoute beaucoup au stress. Puis on a aussi les portes. Quand il y a une porte déverrouillée, bon, on a une espèce de petit minigame pour la déverrouiller. La plupart du temps, les objectifs, c'est tout simplement de voler X cash dans le tableau. Chaque objet qu'il y a dans le tableau, que ce soit une sculpture, que ce soit des classeurs, quand on va interagir avec, il peut nous donner une valeur en cash, puis souvent, il faut juste en ramasser assez. c'est intéressant aussi parce que c'est pas toujours évident ce que tu peux voler. Des fois, tu vas fouiller une bibliothèque, puis ils vont faire comme ah, bon, ça, section, c'est une bibliothèque. Ah, ça, c'est la section romance, ça, section. Ah, histoire, il fait oh, tel livre. Puis là, il le prend, puis ça te donne du cash. Fait qu'il y a un petit côté de découverte, il y a un petit côté aventure, des fois, qui dépasse ce que le jeu pourrait nous présenter dans son exploration. Et c'est ça, habituellement, c'est juste de voler du cash, mais il y a des missions qui sont plus spécifiques où est-ce que il faut voler un objet dans un tableau. Là. C'est assez de base pour ce genre de jeu-là. Là. Pogner un objet ou empoigner un nombre suffisant pour pouvoir sortir. Mais c'est intéressant, par contre, quand tu as à voler un montant, parce que les tableaux sont tellement populés de divers éléments que tu peux voler, fait que ça te dit pas comment tu dois l'approcher, le tableau, ou qu'est-ce que tu dois cibler. T'sais.
Est-ce que tu as un nombre maximum d'objets que tu peux transporter?
Ou... Du tout. Ça ramasse du cash.
Okay, mais... tu fais juste looter jusqu'à temps que les poches pleines.
Donc le côté le fun que je trouvais de Gunpoint, d'avoir plusieurs façons de finir un tableau, ben, il est là aussi. Là, tu peux
il est promener, au centre de
ce jeu. C'est génial, j'aime ça.
Une chose par contre qui rajoute beaucoup à la rejouabilité, c'est les upgrades. Parce que comme tout ce genre de jeu-là, quand tu fais des tableaux, on va te classer. Enfin, je vais partir de là parce que c'est tout le système dépend de ça. Selon le nombre d'alertes qu'on a déclenchées, selon le temps qu'on a pris pour faire un tableau, selon le nombre de tasers qu'on a utilisé, puis selon la quantité de cash qu'on a volé, même si c'était pas l'objectif du tableau, on va être classé. Et selon notre classement, ça va nous donner un nombre de points de réputation. Puis ce nombre de points de réputation-là, ben c'est ce qui nous permet d'acheter des upgrades. Les upgrades, ça va être de pouvoir lockpicker, de pouvoir déverrouiller des portes des niveaux supérieurs, parce que sinon tu peux juste pas. Puis tu le vois visuellement, si une porte a une espèce de loquet additionnel dans le haut, c'est un niveau 2. Puis s'il y a deux loquets additionnels, c'est un niveau 3. Donc tu le sais avant d'approcher, c'est pas un « Ah, oh, fuck, tu peux pas l'ouvrir. » Ils peuvent te permettre de, quand tu t'appuies contre les murs, il y a un upgrade qui te permet de glisser le long des murs. Donc tu peux te déplacer en restant caché. T'as même un backdash où est-ce que tu vas comme glisser par en arrière, puis à la fin de ta glissade, tu vas te cacher le long du mur. Donc ça permet des fois de faire des fuites, d'improviser. Il y a même un skill pour t'accrocher au plafond. T'es limité en temps, ton bonhomme se met à shaker, mais t'es caché même en pleine lumière pendant une petite période de temps. T'as la possibilité d'avoir un meilleur skill pour couper les fils, donc il enlève une mauvaise réponse. Okay. Ce qui fait que quand t'as ce upgrade-là, quand il en a juste deux, tu fais ça automatiquement. Donc ça enlève un gros facteur de hasard. C'est bien. C'est très très
comme un upgrade plate, mais en même temps qui t'enlève le bout comme le plus plate du jeu. Là.
Sauf que t'es jamais dépendant de ce coupage de fil.
Oh, oui.
C'est ça le. C'est là que ça devient un upgrade qui est optionnel puis qui est pas. T'sais, autant que c'est un morceau plate, ben t'as juste pas t'en servir pour faire le tableau autrement. Il y a un skill que tu peux acheter si tu mets comme tous tes œufs dans le même panier là, où est-ce que tu peux être invisible même dans la pénombre. Donc aussitôt qu'il y a un peu d'ombre, personne te voit. Ça doit rendre le jeu assez facile, mais il coûte tellement cher, je pense qu'il faut que tu réussisses tous les tableaux à 100% sans acheter d'upgrade à peu près pour pouvoir te le payer à la fin. J'exagère peut-être un peu, là, mais c'est difficile de te rendre à l'acheter parce que tu te coupes de tellement d'outils.
Ça devient juste intéressant sur un deuxième playthrough.
Ah, true. Bon. Et t'as des upgrades un peu plus cheap, là, genre qui vont jouer avec les variables du jeu. Là. Genre t'as le droit à plus de taser, t'as le droit à plus d'alerte. Les ennemis, tu sonnes l'alerte moins vite quand ils te voient. T'en as même une où est-ce que c'est... Forgetful Mind ou une affaire comme ça, que à travers le temps, tes alertes disparaissent. T'oublies que t'as pris des alertes. Genre, fait comme ça, c'est comme, oh, ben ça fait longtemps, fait que je m'en rappelle plus, tu sais. Fait que là, c'est parce que la justification dans le jeu du nombre d'alertes pis de taser, c'est que ça fait partie du code du personnage. C'est dans son code à lui de pas faire plus que temps parce que bon.
C'est fait que c'est toi qui oublies, tu t'es fait voir.
Bingo,
c'est comme l'ennemi.
Ah, oh, je t'en ai combien d'alertes déjà? Ah, bon, pas tant que ça. Pas tant que ça.
Pas tant que ça.
Fait que c'est bien justifié, c'est drôle. Mais tout cela, c'est extrêmement utile comme upgrade parce que c'est un jeu qui est difficile. Il est vraiment pas très long, mais c'est très 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 difficile. Ce qui fait que les derniers tableaux, si on n'a pas pris des upgrades qui nous avantagent, ça peut devenir frustrant. Surtout les 2-3 derniers tableaux, parce qu'il y a juste 7 tableaux anyway, là. Mais les 2-3 derniers sont très très difficiles. Un fait qui est un petit peu augmenté par le fait que les contrôles sont pas super super tight. Ils sont la plupart du temps très solides, mais il y a quelques fois que tu vas être juste en dessous d'une plateforme et t'es pas à bonne place pour grimper, ou t'as deux pitons qui sont utilisés dans des actions semblables selon ton état, puis là ça fait pas ce que tu voulais que ça fasse. Tu te pognes deux alertes d'une shot, tu fails le tableau, tu sacs. Faut jamais oublier que ça a été monté avec AGS, t'sais, un programme fait pour faire des jeux d'aventure. Fait que c'est probablement ça qui est à base de ce problème-là. Mais les tableaux sont assez courts. Ce qui fait qu'à moins que tu sois dans une run de complétionniste, que tu vas avoir les meilleurs rankings imaginables, c'est pas si pire.
Y a-t-il une histoire à part...
Oui, l'histoire, justement, est remplie de surprises. Chaque tableau est très, très, très différent, puis est très bien dicté par l'histoire. Bon, on le sait que le gars, Yadzi, c'est un gars qui écrit beaucoup. C'est un gars qui vit de sa voix sans se montrer en face. Fait que c'est un gars qui aime écrire. Puis il y a une bonne plume, il y a un bon humour. Gunpoint, justement, quand on a vu l'humour qui se pointait dans Gunpoint, il, à quelque part, ça fait penser un petit peu au style de Yadzi. Le jeu est moins drôle là, de Yadzi, Trilby. Mais il y a quand même une pointe d'humour dedans, puis une écriture intelligente. Et fait que l'histoire est intéressante, puis il y a un petit côté, je dirais, un petit peu Metal Gear, dans le sens que c'est un jeu de stealth, mais l'histoire va dicter certaines mécaniques à certains moments. Qui va rendre ça surprenant. Donc, dans le peu de tableau qu'il y a, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, puis tout est bien appuyé, puis narrativement, ça bâtit bien. Donc, c'est ça, son plus grand défaut, hein, ça ressemble à Gunpoint, c'est de pas en donner plus. C'est sûr que pour le prix gratis,
ouais, là, au moins,
c'est tout un tour de force, mais c'est vrai qu'il y a du monde qui dit même que c'est un jeu d'une heure. Pourtant, je suis bon dans ce genre de jeu-là, à mon avis, puis non, c'est un jeu de 2-3 heures. Là. Mais. Très 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 bon, à mon avis, le défaut c'est de pas en avoir plus parce que chaque tableau est tellement intéressant et rafraîchissant, je suis comme ah, oh, j'aurais aimé savoir ce qu'il aurait pu nous présenter d'autre.
Et le bonus, ça rentre sur deux floppy.
Hey, des mais floppy.
Super intéressant que on vient de parler dans le même podcast de deux jeux qui ont été développés par des non-programmeurs. En fait, des gens qui ont. C'est pas leur travail, qui n'ont pas connaissance de programmation, puis qui ont développé avec un outil comme Adventure Game
Studio,
puis l'autre c'était
GameMaker.
GameMaker. Fait que c'est deux logiciels qui. Comme clé en main, si on veut, là, où tout est
accessible.
Là.
Fait
que ça vient plus qu'à du scripting et de la programmation, en fait. Puis
fait.
Qui ont fait quand même des
justement, chefs, là. C'est du monde qui sont peut-être pas des programmeurs, mais qui sont des critiques, ou donc le côté. Game design est peut-être quelque chose qui est intéressant pour eux autres. Ce que je crois de ça, c'est que GF, la semaine prochaine, tu nous arrives avec un jeu que tu as fait avec RPG Maker 2000, c'est ça?
Voilà, qui est un clone complet d'Assassin's Creed.
Tu vas parler de respecter mon temps.
Mais un peu aussi que je voulais apporter, tu sais, je disais qu'il y avait souvent des interactions qui sont surprenantes pour un jeu qui se présente comme étant très très mécanique. Donc, c'est présenté plateforme, on utilise des mécaniques pour se cacher. Il y a plein de petits éléments vraiment cool qui nous force à nous servir dans notre tête pour en faire plus. Il y a un tableau, le troisième, qui est une espèce de resort où il y a plein de chambres. Puis il faut que tu trouves où est-ce que le gars qui te blackmail réside. Quand tu trouves la liste des chambres, qui est un papier sur un mur, tu as la liste des chambres, tu vois toutes les chambres qui sont occupées ou vacantes, mais tu peux aller voler les chambres vacantes. Tu sais, juste rentrer dans la porte, ça te donne du cash, puis tu sors. Mais tu pourrais ne pas y penser puis juste voir ok, le nom du gars, je vais rentrer, c'est là, ça finit la mission, quand tu rentres, la narrative rembarque puis le tableau est fini. Mais si tu regardes, hey, Colic, sont libres, tu rentres dedans, tu vas voler du stock. Il y a à peu près dans chaque tableau, il y a une petite touche comme ça, ce qui nous ramène encore plus à l'idée que les stealth games, c'est des jeux pensants. Donc pour moi, c'est un 3.5 sur 4. Parce que la seconde qu'on a. Ah, tout à fait. 3.5 sur 4 pattes, bien sûr.
Fait que comme Gunpoint, finalement, là, parce que tu sais, mon achievement, c'est un peu ça qu'il voulait dire.
C'est ça. Ah oui, puis ça. Puis dans ma tête, c'est deux jeux qui m'ont autant ravi. Puis quand on a parlé de faire un épisode de Stealth, je me suis dit, il y a trop peu de gens qui connaissent Trilby The Art of Theft.
Ça, c'est génial.
Qui est un jeu gratuit, puis j'avais tellement un souvenir fort que je me le suis claqué, puis c'était encore aussi bon. Il n'y a pas de défaut évident dans ce jeu-là. Bon, en tout cas, pour la facture que tu payes, on s'entend. Là. Si j'avais payé 60$, je dirais peut-être autre chose.
Mais... 60$ pour un jeu un peu... Ben, tu sais, qui a un style un peu laid, puis qui dure 2 heures, j'avoue que...
Puis, ben, un peu comme... En fait, plus agressif que Tom Francis, il y a juste la musique qu'il n'a pas faite lui-même dans le jeu. Donc, tout le visuel qui est très beau. Le pixel art, il est vraiment, vraiment clean.
Ouais.
C'est tout directement de Yadzi.
Ben, ça donne un petit look de jeu d'aventure, justement, point and click. Là, on reconnaît le style... visuel qui doit aller avec la machine là, qui est utilisée pour...
Ouais, c'est ça, le petit côté pixel art PC,
ouais,
plutôt
ouais.
que console qu'on a l'habitude de voir souvent. Donc 3.5 sur 4 et beaucoup d'amour pour ce jeu-là.
Oh. C'est beau.
Ouais, ouais, c'est
avec de l'amour de même, on remet la petite tune jazz de Gunpoint.
Surtout pour le jeu gratuit. On se fait ça caler, les gars.
Écoute, je sais pas.
Je t'ai occupé.
Ouais.
Et aussi que tant que t'as deux couilles, tu m'approches pas.
Mais avec une, c'est correct.
Ah, ouais, parce que ça veut dire que j'ai les deux liens.
C'est bien là, il analyse.
C'est ce qu'on parle, hein. C'est des jeux pour penser, là. Mon cerveau t'a on. Yeah.
Fait qu'il nous reste juste notre classique, tu sais, parce qu'après, il y a des
visuels. Ouais, c'est ça, on a des gros classiques.
Classique discussion de fin de podcast. Où est-ce qu'on va parler cette semaine?
De notre visite à. Non.
Non, j'allais dire plutôt d'y aller avec nos anecdotes comme les autres fois, là. On va essayer d'avoir un peu plus de viande à ce qui se parle. Contrairement à la viande que les deux gars risquent de perdre.
Donc, quand on parle de viande, on parle de notre visite au bar de danseuse de Saint-Thomas.
Au viande. Grand galop à Saint-Côme.
Ok. Non, j'ai même pas c'est quoi, là.
Ça se fait pas chez Vidéotron, tu
sais. Font leur meeting corporate là-bas. Non, on voulait
parler. Noël. Party de Noël.
Un peu parallèlement au jeu de stealth, parce que c'est un genre de jeu qui est mal défini, j'ai le goût de dire.
Hey, il y a un beau segway.
Oh!
Je l'ai pas vu venir.
Non, c'est ça, c'est un genre de jeu qui est mal défini, puis qui ont tellement de choses uniques d'un genre à l'autre. Fait qu'on se disait, c'est quoi les mécaniques dans un jeu que vous aimez, puis que vous voyez pas assez souvent, vous dites, hey, ça serait le fun que j'aille voir ça dans un jeu parce que ça m'a tellement fait triper.
Ah, là, tu parles de mécanique de jeu. Moi, j'avais vraiment compris jeu de mécanique. Fait que j'avais parti d'un review de Monster Garage.
Non, mais Car Mechanic Simulator, c'est là. Ou Street Rod 2, pour continuer avec le gars rétro PC. Là. C'est là que vous googlez parce que vous avez aucune idée. C'est
ouais,
quoi,
non,
là.
Aucune idée. Mais Monster Garage, j'ai joué pour vrai, parenthèse, là, quand j'étais à Polytechnique, puis qu'on. On leachait tout ce qu'on pouvait trouver sur les news groups là, qui est encore accessible mais pas throttlé dans notre accès internet là. Fait que ouais, bref. Non, j'ai pas le review de jeu là, c'était pas mal plat.
Pour ceux que ça pourrait intéresser, Street Rod, Gearhead Garage, Monster Garage, puis Car Mechanic Simulator. Ouais. Tous des jeux de fun en plus.
C'est quoi le nom de jeu? C'est quoi le nom de jeu là où est-ce que tu faisais des. Mettons, t'as un paquet de poulies pis de cornes pis de.
Incredible Machine.
Ça, c'est ça. Probablement m'en est un review qui va arriver.
C'est bon. Pas la version mobile qui ont sorti.
Non, la vraie okay. Vieille version. Là,
de Dynamics, va... publiée par Sierra pis.
Bref, on vient à notre sujet parce que sinon on en a jusqu'à demain matin.
Fait que Danny, bâtard! Quelle mécanique tu t'en as mis dans ce jeu?
Hey, mais moi, je me suis laissé tenter. Je suis revenu à mes.
La victime est si belle et le crime est si gay.
Oui, exactement. Paparap.
Fait que si t'avais le temps de tout lui dire, qu'est-ce que tu fais?
J'allais lâcher un drop de la météo.
Non, mais honnêtement, quelle mécanique est-ce qui est proche de ton cœur de loup?
Parle
cœur
de... Oh! Arrêtez-nous quelqu'un, arrête. Éteignez le podcast, allez écouter un bon à la place, faites de quoi? Fait que vas-y, je vais m'étouffer pendant ce temps.
Non, je me suis laissé tenter par... Ben, tu sais, je le disais un peu au début, je suis fan de vieux JRPG, c'est les premiers jeux qui m'ont fait triper puis qui ont fait que je voulais plus aller me coucher, que je me levais à 5h le matin, puis bref. Je reviens à des mécaniques qui viennent de ça. Tu sais, une des critiques qu'on entend souvent des gens qui sont pas des fans, c'est que c'est des jeux qu'on est hyper passifs. Ben,
non!
Que tu choisis ton menu, tu passes sur le bidon. T'sais.
Jamais je dirais ça.
Non?
Calique.
J'aime quand même ça, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a...
Tu joues à une main, là. OK, fine.
Ça, vas-y, go.
Bubble Bad Babe. Oui. Pour ceux qui connaissent pas Bubble Bad Babe Bonus,
googlez-le
pas. Googlez-le pas. Ben, googlez-le, mais pas à job.
Mais c'est ça. Normalement, l'âge des filles dans Bubble Bad Babes aujourd'hui, c'est plus rendu des cougars que d'autres choses.
Waouh! Hey, beau drap. Non, donc je reviens à quelque chose qui est intéressant. Tu sais, j'aime le JRPG, même quand il est un peu plus passif, ça me dérange pas. J'aime, tu sais, c'est le côté histoire que je trouve intéressant, le côté progression et tout. Mais il y a quand même une petite mécanique qui me fait triper dans certains jeux. Des mécaniques qui sont un peu plus engageantes. Reste que c'est le tour par tour, hein. Je parle pas d'un action RPG, là. Je parle de mécaniques qui sont engageantes dans un jeu au tour par tour. Par exemple, on pourrait parler de Super Mario RPG. RPG.
RPG.
Et donc, je n'avais pas vu cette filière. Super Mario RPG, où est-ce que t'as un côté de time d'action qui fait que quand t'attaques avec Mario, pour ceux qui connaissent pas, t'attaques avec Mario, fait que tu fais des moves de Mario, fait que ton premier move que tu pognes, c'est de sauter sur le monde. Mais quand tu times ton bouton, tu fais un double jump, puis plus tard dans le jeu, un 872 000 jump, qui fait que ton dommage est plus élevé. Puis ça, ben, c'est intéressant parce que t'es devant ton RPG, c'est en tour par tour, mais pendant que t'as, après que t'as baisé ton piton, tu regardes pas comme les mouches voler pendant que les actions se font. Tu veux te timer.
J'aime surtout que en défense, tu puisses.
Puis en défense aussi, tu te fais attaquer, tu peux te dodger, tu peux te rentrer à la tête dans le chapeau pour manger moins de dégâts. Les successeurs de Super Mario RPG ont même un peu le même principe, là, genre, j'oublie les noms, là, mais genre Bowser RPG. Inside, puis tout ça. Là. Bref, des jeux que je risque de jouer bientôt.
Puis en PlayStation 1, il y avait Legend of Dragoon qui poussait beaucoup.
C'est vrai, je l'avais oublié
celui-là. C'était central au jeu, ça.
Ouais, mais c'est un autre des jeux que j'avais joué. J'avais beaucoup aimé, mais je l'ai pas fini, fait qu'il y a comme moins enregistré. Bref, si je reviens à ces principes d'action-là, ma préférée, ma vraie de vraie préférée, je reviens à un de mes jeux qui est un de mes jeux favoris aussi, qui est les mécaniques de Blitz de Sabine dans FF6.
Ça, c'est le petit DDR là, qu'il faut que tu fasses.
Quasiment, mais en fait, moi, je l'avais plus comparé à des combos de fighting games. Ben oui, pour ceux qui connaissent pas, c'est que bon, Sabine, qui est un genre de personnage qui fait des martial arts, ben t'as une de ses techniques de combat, ben sa technique de combat là, à part les magies que tu peux apprendre, c'est vraiment de faire des attaques ou des choses comme ça avec des combos. Fait que tu pèses sur le bouton, il se met en mode où est-ce que tu input tes pitons, où est-ce que tu rentres les boutons, puis ben tu fais des attaques qui sont vraiment très fortes, mais si tu manques ton combo de boutons, ça fait rien. Ça fait genre blitz raté, puis tu fais rien. Mais quand tu les réussis, c'est extrêmement fort. Tu sais, au début, t'as des premiers qui sont très faciles, que c'est de faire genre gauche-droite-gauche, tu repèses sur A pour confirmer, puis paf, tu fais un pommel qui se fait bien. Fait que même pour à cette époque-là, pour un flow, mettons, qui a 8-9 ans, qui veut jouer, qui est pas super agile, ben il peut faire celui-là tout le long du jeu, puis il est fort tout le long. Mais à mesure que ça avance, t'en as des plus forts, tu sais, tu vas te ramasser mon préféré, là, qui... Voyons, je cherche le nom, parce que là, j'avais comme une page, mais qui me met le nom de la version en...
Au bas, gauche-droite, c'est l'Extart.
Non, c'est pas ça.
L'Academy Blitz.
Robolt ou Aura Cannon, en tout cas, j'oublie le nom sur la version SNES, où est-ce qu'il faut que tu te fasses un quart de tour avant de faire ton bouton.
Là,
t'es vraiment genre sur les moves de jeu. T'as la demi-lune, là t'en as où est-ce que tu vas aller comme avec les triggers, le right-left. Disons que c'est vraiment plein de combinaisons de boutons. Puis, tu peux les apprendre, mais tu retiens ceux que t'aimes le plus. Puis le move le plus fort du jeu qu'il fait, ben c'est de faire un full circle, tu sais.
Ouais,
c'est comme intéressant, c'est vraiment des moves de fighting games, là. Je
trouve ça le fun, que la mécanique que tu trouves le plus fun dans un RPG, c'est ce qui fait que c'est pas un esthétique de RPG quand tu joues.
C'est ce qui fait que c'est le genre de jeu que t'aimes le moins. Bref. mais je trouve que ça fait un peu plus engageant. Tu sais, je continue de triper ces RPG même quand il n'y a pas de mécanique engageante, mais j'avoue que ces mécaniques-là font que t'es moins passif devant le jeu. Puis ça le rend encore plus engageant. Puis les blitz de Sabine, vraiment, là, c'est ce qui m'a fait le plus triper. Peu importe le nombre de fois que je rejoue ce jeu-là, je prends ce bonhomme-là, à peu près dans toutes mes teams. J'ai rejoué cet hiver dernièrement avec ma blonde. On a fait un playthrough complet en coop. C'était vraiment cool.
Ça, c'était weird, là. Le mode coop, où est-ce que tu perds une fraction de seconde parce que tu te demandes si c'est ton bonhomme. À qui c'est le tour, parce que normalement tu bâches le A, là, puis tout se fait. Là.
Ouais. Mais en même temps, ça fait quelque chose d'intéressant, comme quand les deux aiment le jeu, là, puis tu splits les bonhommes, puis ben, moi je jouais avec Sabine.
Pis... Ben, j'ai joué à Final Fantasy à chandelle, c'est spécial.
Ah, quand même, hein.
Avec la tête de Gunpoint, là.
Avec une fondue, puis.
C'est la fois que j'ai trempé à manette. en même temps, c'était. Bref, ce que je disais, c'est que, tu sais, j'ai rejoué, puis je checkais un peu des. Pas des walkthroughs comme tel, mais tu sais, je vais pas oublier telle ou telle affaire. Puis quelqu'un qui dit, hey, équipe-le avec deux E-rings, qui est des items qui boostent la magie, puis fait des Aura Cannon, c'est n'importe quoi. Là, je démolissais tout ce qui existe parce que l'attaque est très très forte à cause du drawback que si tu rates, ça fait rien. Mais quand tu rates pas, parce que bon, ça fait 800 fois que tu fais le jeu, puis t'as 30 ans, puis de faire une demi-lune.
T'as-tu encore ta cassette, toi, de Final 3?
Ouais.
Ouais, t'es de même, toi.
Ouais, je suis de même.
En plus de ton Earthbound,
tu sais. Ouais, de mon Earthbound.
Calique.
Fan de RPG, hein, c'est ce que ça fait.
Ça garde ses cassettes qui valent foutrement cher aujourd'hui.
Ouais. En pleurant d'avoir acheté le guide, mais bon.
Mais non, je suis d'accord par exemple.
Ouais, mais en fait, une mécanique que j'ai beaucoup aimé parce que c'est très engageant, puis ça rajoute un petit côté le fun. Puis c'est ce qui fait que j'ai trippé sur Mario RPG aussi, parce que justement, le jeu est plus engageant. Tu sais, c'est en plus que bon, l'histoire est le fun, tu joues Bowser, ce qui est trippant. Bref.
Mais dans les. JRPG moderne, par exemple, c'est quelque chose qui essaie d'aller... Tu sais, la plupart des derniers finals, les combats sont plus dynamiques. C'est pas tôt par tôt, là, ça, ça a changé.
Mais ça, là, c'est Final 7, t'avais les... comment ça s'appelait? Les Limit Break, qui avaient des...
Ouais, mais qui étaient quand même juste
bonnes. On mettait des button mash, t'avais des time press.
Il y en a qui étaient sur...
Oui, il y avait toute une mécanique, chacun des Limit Break.
Pas tout. Il y en a qui c'était juste tu faisais puis ils bashaient tout seul.
OK. C'est ça, mais tu sais, encore enfin, Mario et Luigi, toute la série est montée comme ça.
Mais tu sais, on parle de Final plus récent, le Final 14.
Qu'une idée, faut jouer.
Ils sont en réel, les combats, puis tu... Ça ressemble, ça s'approche plus d'un
Final 14, c'est pas les MMO, ça?
Ouais, c'est les MMO, celle-là. Peut-être 13.
C'est
le
Final
13.
Ah, ouais. Oh, le jeu de corridor, là! Ouais.
Moi, j'ai pas joué à passer le 10, vraiment, là. Ça a été là que j'ai arrêté.
Ben, il y en a deux qui c'est des MMO, il y en a un que c'est un... genre, comment dire... On se fait bâcher si on parle de ça, là, mais Final 12 qui était super intéressant, mais c'est comme un MMO que tu joues tout seul,
ouais.
Puis tu donnes des AI à tes bonhommes, tu sais, c'est comme calique, c'est pas ma job.
Fait que c'est encore moins engageant, ouais. C'est que...
Ben bref. Non, pas vraiment, parce que c'est quand même real time, là, mais bon. Puis Final 13, que c'est le jeu des corridors, tu sais.
J'ai pas joué.
Ils te mettent une map dans le coin, c'est insultant, calique. Tu peux aller d'un bord puis aller à l'autre. Pourquoi il y a une crise de map là? Je peux pas aller nulle part d'autre, à signer.
La map pas, dans là. Le donjon de Nalbeck est plus compliquée que ça. Un autre drop geek, ce soir, je m'ouvre à vous.
Je m'ouvre à vous. Une chance qu'on est dans le noir parce qu'on verrait des choses.
Ouais, vraiment, on verrait des choses que tu veux pas voir. Fait que, ouais, voilà pour ma mécanique que j'ai choisie.
Ça reflète bien ton intérêt dans le gaming.
Moi,
ma mécanique préférée. Que même si on l'a revu quand même une couple de fois, j'ai goût de dire, c'est même pas de mécanique, c'est le jeu au complet, non? Bionic Commando, le swinging au bout du bras dans Bionic Commando. Tout le jeu que t'as pas l'air d'avoir joué à Bionic Commando. Holy shit, ok. Toute la série Bionic Commando, traditionnelle en 2D, c'est un jeu que tu peux pas sauter du tout. Mais il y a beaucoup de verticalité. Mais t'as un bras bionique. Qui est un grappling, puis que tu peux te soigner avec.
Okay.
Mais tout le côté, justement, un petit peu funambule.
Un petit peu comme un Worms, tu sais, là. Quand tu faisais la corde en Worms, tu te balançais de gauche à droite.
J'allais dropper justement dans Worms, parce que quand on était kid avec mon frère, on jouait tout le temps à Worms en PS1. Puis à tout bout de champ, là, je mettais des girders, ça, c'est de barrières de construction. Puis je me promenais avec les Ninja Rope dedans, puis je traversais la map au complet.
Fun fact! Worms 2 est un des premiers jouets que. Un des premiers jouets. Ayez du temps que je chante ma gueule. Un des premiers jeux que j'ai joué avec Jeff de façon abusive.
Worms 2.
Okay. On jouait chez vous à Worms 2 de façon intense.
Hey, oui, au PC sur le même clavier.
Au PC sur le même clavier à chaque tour.
Mais moi, c'est ça avec mon frère et mes deux cousins à Berthier. Worms 1, astique qu'on l'a brûlé ce jeu-là. On a brûlé des peanuts.
C'est pas Worms 1, tu fais rentrer un cheat. Puis ça, les verres disparaissaient, puis t'avais un genre de jeu différent où t'avais des petits tanks et des hélicoptères.
Je ne sais pas. Honnêtement, là.
J'investigue, on s'en reparle.
Excellent. Mais ça, toute cette mécanique-là de se soigner, d'avoir un grappling hook, puis de traverser les environnements. Pis surtout comme Bionic Commando, parce que tu peux même juste pas sauter. Ça, je trouve que ça rend ça tellement intéressant. Puis la façon que tu l'utilises aussi, tu te sens vraiment. Quand tu réussis de quoi de cool avec. Tu te sens vraiment fort. T'sais, t'as vraiment l'impression d'avoir réussi quelque chose. Puis ça te force à regarder les level design différemment.
Mais c'est super intéressant parce que justement, d'habitude, tu parles de platformer, tu parles de jumper. Là. Fait que là, c'est complètement une autre mécanique. J'avoue que c'est cool.
Ben, c'est ça, tu dois absolument utiliser ça dans ta façon de jouer. Je sais qu'ils ont fait un remake, puis dans le Bionic Commando Rearmed. Puis dans le deuxième, ils ont permis de sauter. Ils ont trouvé moyen de le faire d'une façon qui brisait pas le jeu, là. Mais ça a quand même changé.
Ça vient diluer ta mécanique un petit peu.
Ouais, c'est ça. Mais ils ont quand même mis genre des achievements puis des bonus à le faire sans utiliser ça.
Ouais. J'avoue que c'est intéressant.
Fait que plus de rope swinging mechanics.
On en a jamais assez. Y a-tu d'autres jeux à part ça? On parle de parmi les worms.
Quand elle a arrêté là, plus de roping.
De roping.
Ou c'était quoi le jeu là sur iOS là, genre fallait que tu... Zenbound.
Ah oui, oui.
Calique. Ouais, ouais. T'as des objets là, pis faut que t'y roules avec de la corde.
Ouais.
Pis là, c'était dans le début des jeux sur iOS là, fait que c'était comme... Ah, oh, c'est un jeu relaxant, quel con... Calice, c'était cave là. Tu roulais des cossins de la corde.
Ouais, c'était comme une statuette d'oiseau en bois, mettons, pis tu t'as fait se tourner.
C'est comme si tu travaillais gentil dans un marché public, là, puis là tu vends des bouteilles de vitre roulées de la corde. C'est comme bon, ben t'as l'impression d'aller travailler pour vendre du stock dans des marchés au bus. Puis toi, Jeff?
Bon, écoute, je suis allé plus récent un petit peu. La mécanique qui m'est tout venu à l'esprit quand on a parlé de mécanique, ça a été le... C'est pas une mécanique de jeu, c'est plutôt une mécanique de narrative. C'est le narrateur dans Bastion, en fait.
Ah ouais.
Qui fait la narration de toutes les actions que The Kid fait dans le jeu. Vraiment, là. Logan Cunningham, de son petit nom. Qu'on peut entendre aussi dans Starbound. C'est lui qui fait la narration dans Starbound. Ça se peut, mais c'était... Je sais qu'il était beaucoup en demande à son top rébation. Tout le monde s'est garoché sur lui. Tout le monde voulait avoir sa voix dans le jeu. Puis,
Alors, JF continue de parler et de relater l'histoire de Bastion.
Il ne croyait jamais qu'il devrait à nouveau parler de ce jeu. Mais il semblerait que le destin lui imposa ce critère.
Fait que pour ceux qui n'ont pas joué à Bastion, ça ressemble à ça.
Mais en plus professionnel, puis pas avec de la musique comme jazzy. De...
Ouais. Puis, je trouvais que c'était une mécanique qui était... ou un système qui était super intéressant. Puis je sais que les développeurs ont construit le jeu autour de ça. Ils ont construit le jeu, puis dès les premiers balbutiements de développement de Bastion, la notion de narrateur était déjà incluse dans le jeu. Et ce que je trouve super génial, c'est que c'est directement lié aux actions du personnage. Mais tu sais, le personnage se promène, l'histoire est apportée comme ça, tout le lore de Bastion est apporté à travers le narrateur. Et le narrateur est quelqu'un, parce que c'est le premier survivant de la calamité, ça s'appelle dans le jeu, l'événement qui a comme créé la fin du monde. Puis c'est le premier que tu rencontres, c'est lui. Puis là, il se présente comme étant The Stranger, mais c'est lui qui parle tout le long du jeu.
C'est ça que j'ai vraiment trouvé cool, c'est qu'il commence à faire la narration, tu te promènes, puis t'arrives devant lui. Ça a comme tout. Ça gel, là. Ça prend forme.
On en parle, puis je suis triste de ne pas l'avoir fini ce jeu-là. Je l'ai pris dans un bundle à un moment donné, fait qu'il a comme passé après d'autres parce qu'à un moment donné, tu as des choix. Calvaire, faudrait que je le continue.
J'ai trouvé ce que je cherchais, un jeu d'aventure point and click qui s'appelle Resonance, de What Jet Eye Games, qui font juste des jeux d'aventure point and click. Crisse de bons jeux d'aventure. Si vous aimez les point and click, là, à faire, là, il est écœurant. Il fait la voix de les détectives dans le jeu. Super, super bon jeu.
Mais il y a une voix très intéressante. Une voix qui se démarque clairement, ça c'est... Il n'y aurait pas eu cette voix-là, peut-être que ça n'aurait pas eu le même impact. Mais l'écriture, outre sa voix, là, l'écriture du personnage, du narrateur, est super incroyable. Et il y a comme une désinvolte, un côté désinvolte à son discours. Oui, comme s'il raconte l'histoire de tout ce qui se passe autour. Jamais il compte de mentir, mais il tourne toujours la vérité un petit peu. Il y a tout le temps ça.
C'est blues.
C'est très, blues. Très blues. Puis... ça sent bien, des fois c'est comique un petit peu. T'sais, par exemple, tu te promènes dans le jeu, puis pour ceux qui connaissent pas Bastion, tu flottes dans le vide en fait. Là. T'es pas dans le vide, c'est juste le look du jeu où tu te promènes sur des îlots, puis tu vois juste les sections importantes du jeu. Puis quand tu t'avances, mettons dans une rue, la rue est pas là. Quand tu t'approches de la rue, les dalles viennent du vide, puis viennent créer le tableau devant toi. Fait, ça a un visuel incroyable.
Avec la calamité, justement.
C'est ça. Mais tu peux sauter en bas. Puis des fois, les monstres vont te pousser en bas, ou des fois, ils arrivent sur des plateformes de chaque côté, puis ils sautent sur le chemin principal où tu te trouves, et tu peux tomber. Puis quand tu tombes, souvent, le narrateur va dire dans mon souvenir, c'est pas comme ça s'était passé. Ça rewind, ça revient, puis ton personnage revient, puis tu continues.
Tant que c'est moins aliénant que. C'est comme dans Prince of Persia, là, quand tu meurs, là. Wait, that's not how that happened. Là,
ouais, non, mais il y a.
C'est correct, ta gueule, style.
Ça passe toujours super bien, puis c'est humoristique, là. C'est pas. Il y a de l'autodérision un petit peu dans la façon dont c'est fait. C'est très, très léger.
Non, c'est
là.
Pas de l'autodérision, il rit de toi.
Il rit de toi.
Ouais, la narration est comme ça pas mal tout le temps. Je veux dire, de mon souvenir, tu sais, il va pas dire. Il a arraché la face à 28 monstres, là. Tu sais, il va le tourner. Ouais,
quand tu pognes ton arme au début, là, tu sais, il fait quand même un petit commentaire, c'est très, très. Plein d'euphémisme.
Ouais, exactement. Puis, quand il va décrire, mettons, tu rencontres un personnage, ou tu rencontres un nouveau type d'ennemi, ou tu arrives dans une nouvelle région, puis c'est toujours le narrateur qui te présente. Qu'est-ce qui se passe là? Maintenant, faut que t'aies dans un temple, mais il t'explique qu'est-ce qui se passait avec ce temple-là. Puis il y a toujours un commentaire désobligeant à passer sur ah, mais les prêtres, ils étaient comme ça, ou ils étaient, tu sais.
Mais c'est ça, puis c'est un des commentaires que j'avais relevé quand j'ai parlé de Quest for Glory la semaine dernière, il y a deux semaines, en fait. Oui. Que le fait qu'il y ait beaucoup de texte à l'écran dans ce genre de jeu-là, ça te permet de pas juste. Oui, tu sais, la présentation visuelle va te donner beaucoup d'informations, mais il y a rien comme quelqu'un qui décrit une scène. Puis ils ont ramené ça dans Bastion, qui était quelque chose des jeux d'aventure.
Ouais. Fait qu'on retrouve tout le même contenu, toute la richesse du contenu qui est apporté par la narration, mais il n'y a presque aucun texte à lire. Fait que t'es tout le temps, ton personnage est là, tu te promènes, t'es dans l'action, puis il arrête pas l'action. Le jeu continue, l'action continue, puis le narrateur parle par-dessus, puis t'explique qu'est-ce que c'est, puis c'est toujours relié à ce que, aux actions que tu poses, puis c'est...
Ouais, il fait une vraie narration de tes actions, pas juste des événements du jeu. C'est ça
mais c'est ça, tu sais, c'est pas un gros bloc de texte à lire. C'est pas non plus genre des cutscenes à pu finir avec des voice actors, tu sais, mettons comme dans Star Wars, là.
Knight of
the Old Republic, là, mais pas Knight, mais The Old Republic, là, le RPG que j'ai beaucoup aimé, mais que c'est que ça. Je trouve que c'est un bon point entre les deux. Ça se fait en même temps que tu joues, tu l'entends, ça explique ce que tu as expliqué. Il n'y a pas d'arrêt dans le gameplay. Puis en même temps, il y a comme tout l'humour, tout son accent aussi. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du visuel.
Puis tant qu'à entendre un astic de personnage répéter des phrases en boîte tout le temps, là, j'aime bien avoir un narrateur qui chirpine de façon comique.
Puis ce qui est surprenant, qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de répétition. Le jeu, tu sais, dure un certain nombre d'heures, puis jamais le narrateur va tomber dans des patterns de répéter la même chose. Ou, okay, peut-être s'il tombe dans le vide, il va finir par répéter le même discours, mais il y a des milliers de lignes de texte qui ont été enregistrées. Puis, fait cocasse, Logan Cunningham, qui est le voice actor, c'est son premier travail professionnel en tant qu'acteur. Lui, il a décidé, il a fini l'école, puis il a décidé que ce qu'il voulait faire dans la vie, c'était être acteur. Et il s'est avéré qu'il était le coloc de, je sais plus quoi son nom, mais le Amir Rao, je pense, là, le lead designer de Supergiant, qui a développé Bastion. C'était son coloc. Fait qu'ils ont enregistré toutes les lignes de texte du narrateur dans leur appartement. Dans douche. Dans leur appartement. Puis il y en a énormément de lignes de texte, mais c'était facile. Il sortait de sa chambre, il rentrait dans la chambre du développeur. Puis tout le kit était là, ils faisaient des enregistrements à la maison, chez eux, quand il y avait le temps.
En bobette.
En bobette, peut-être. L'histoire ne le dit pas.
Mais c'est sûr que quand t'entends un gars qui a une voix de main, il mastique, tu veux lui donner une place dans un projet.
Fait que c'était son premier projet, ça a été fait dans son appartement, chez eux, il est juste bien tombé. Il voulait être acteur, il avait une voix incroyable, puis il s'avérait habiter avec le lead designer de Bastion.
Fait qu'aujourd'hui, on a parlé de deux jeux qui ont été développés dans un sous-sol, puis d'un voice actor qui a été enregistré dans salle de bain.
Dans salle de bain.
Assis sur le trône avec le micro.
C'est pour l'écho, la salle de bain, dans le fond.
Fait que morale de l'histoire, vous pouvez développer un jeu incroyable sans aucun budget, sans aucune connaissance en programmation.
Tout ce que ça vous prend, c'est un coloc et une salle de bain.
J'avais un film qui commençait comme ça l'autre fois.
C'était chialeux.
Ouais, mais je voulais pas aller là parce que sinon tout le monde, c'est néo-gaf, vont penser qu'ils peuvent être des hosties de game designer parce qu'ils chialent sur tout ce qui se passe dans la vie. Fait que, fuck
néo-gaf. Si quelqu'un est intéressé à tester Bastion, c'est simple. Si vous avez une plateforme accessible, Bastion est disponible sur la plateforme. C'est simple, il est disponible dans Chrome.
Je pense que j'ai vu une version sur NT.
Il y a une version Chrome dans l'App Store.
Il y a une fucking version Chrome, c'était carrément.
Il est partout, là. Il est fait. Ça a été développé avec Xena, Monogame. Ouais. Fait qu'il était sur Xbox au début, sur Windows. Il est Windows, macOS, Linux, Xbox 360, iOS, Chrome, PlayStation 4, PlayStation Vita.
Fait que finalement, c'était le review de Bastion.
Game Boy Color? Non.
Si seulement.
Mais avec le son comme. Le son, on n'aurait pas le même rendu au niveau de la narration. Hein,
le son samplé, je suis comme. Ah, elle est bonne, la narration, c'est vraiment cool.
Ce mais il y a quelques jeux depuis qui ont repris ce concept-là de narration. Je pense à Transistor.
Ouais, mais là, c'est la même compagnie, tu sais.
C'est la même compagnie. Ils ont repris le même concept, mais je trouve que ça n'a pas été appliqué avec le même
soin,
peut-être. Le narrateur était moins intéressant. Je me suis tanné de Transistor. C'est un jeu que j'ai pas terminé.
C'est parce que comme un de vous deux, en fait, le narrateur devait avoir beaucoup moins de couilles.
Oh! qui reste à déterminer?
C'est une question ouverte.
Exactement. Fait que on vous rappelle d'aller sur Twitter.
Hashtag Jeff.
Hashtag Danny.
C'est un sagouin vers une conclusion.
Danny Monocouille.
Monocouille, pardon.
Ouais, on fait que
Monsieur Monocouille,
pour l'instant, j'ai encore les deux. En tout cas, je comprends du contraire. Donc, en conclusion, le podcast va être disponible sur Podomatic ou podomatic.com/divanquest, sur SoundCloud ou soundcloud.com/divanquest. Divan Quest, aussi sur iTunes, sur Stitcher en cherchant Divan Quest. Si vous voulez le retrouver ailleurs, si vous voulez nous envoyer du hate mail, twitter.com/divanquest ou pour voter pour Jeff.
Bon, juste pour Jeff.
Jeff. Avec les hashtags que vous voudrez. Puis sinon, par courriel au divanquest@gmail.com.
Matt, tu m'enverras le podcast, je vais l'éditer. Ça va me permettre d'insérer dans le podcast un message subliminal qui joue à l'envers. Qui vont inciter les auditeurs à aller voter pour Daniel.
C'est bon, fait qu'on fera pas ça.
Bonne idée. Hey, on se revoit dans deux semaines.